Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il va falloir qu'il bosse. Je suis déjà content là. Philippe, il a déjà convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil. Parce que moi, ça serait demain matin à 6h. Et c'est honteux ce que j'ai dit. Je me réserve parce que je vais exploser.
Putain de merde. Sérieux.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit et demi, exceptionnellement ce soir, après la journée de Ligue 1 de ce mercredi, l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir une idée un peu plus claire de ce que peut être une dream team de l'after. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là. Florent, bonsoir.
Salut à tous et salut aux amis du bémol.
Et Stéphane Guy est là. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, citoyen, bonsoir.
Alors, on a demandé à Stéphane de venir, parce que comme Flo nous a expliqué que maintenant, il ne regardait que les matchs de Clermont et de Lorient.
Eh oui, j'ai entendu ça.
Donc, on s'est dit, mince, on va être mal, parce qu'il n'est pas bon, il ne veut pas regarder les autres.
Je n'ai pas cité Clermont, mais j'ai cité Lorient. Et j'ai eu raison.
Alors, évidemment, jusqu'à minuit.
Si tu as regardé Lorient ce soir, tu m'étonnes que tu as eu raison, c'est un des plus beaux matchs.
Bah, c'est ce que je viens de dire.
Tu l'as pas dit pour le match de ce soir, si. Tu l'avais dit pour le match d'avant.
Non, je viens de dire effectivement, le match de ce soir justifie la vie d'hier.
C'est-à-dire qu'il y a des équipes. Les résolutions que tu avais prises, à savoir que maintenant tu voulais plus regarder ces matchs-là. Je confirme que tu as eu raison, parce que c'est le meilleur match de la soirée.
Et si tu décides de ne pas regarder Lyon, bah t'as raison aussi.
Exactement.
Oui, ça c'est pas la trouvaille de l'année.
Je te trouve dur, Stéphane.
Lyon.
On est toujours beaucoup plus tenté, surtout un soir de multiplex comme ça, c'est très difficile de faire un choix, où t'as trois écrans, quatre écrans, et à l'arrivée, c'est quand même pas simple de bien voir tout ce qui s'est passé.
On n'y comprend rien, mais on vous dira tout quand même.
Exactement.
Vous inquiétez.
Les yeux vont toujours principalement quand ça, Paris, par réflexe automatique.
Ouais. C'est un match intéressant, Paris.
Lyon, Marseille, et effectivement, le Reims, Lorient. En d'autres temps. Même pas un coup d'œil.
Non, mais dans le contexte de la Ligue 1 actuelle, tu as envie de revoir ce que fait Reims trois jours après son match contre Paris.
C'était probablement le match de la soirée. Donc Flo a bien fait de regarder ce match-là. Il va pouvoir nous parler à nouveau de l'effet Castagnier.
Alors, messieurs, essayons quand même de faire une émission à peu près construite. On va tenter de parler de tous les matchs.
La soirée de Ligue 1 n'est pas construite, mais nous, il faut qu'on soit construit.
Exactement.
Sachant que la mode est à la déconstruction.
Sans moi.
Donc construisons. Allez, il est 23h, c'est l'heure des 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
3 points, évidemment, efficaces, courts. Messieurs, Daniel, tes 3 points ce soir.
Le premier point, c'est sur le PSG qui, même quand il gagne, ce PSG, il trouve des moyens pour nous rendre inquiets. Le deuxième point, c'est sur l'OM qui s'affirme de plus en plus comme non seulement le premier candidat à la deuxième place, mais je le maintiens, on ne sait jamais, à peut-être plus, parce que tout ce que fait cette équipe est très bon. Et le troisième point, alors là mon vieux, va me le choper où t'as envie, je vais laisser le Reims-Lorient à Flo, il va en parler, voilà, donc je ne prendrai pas ça comme troisième point. Peut-être le Lens-Nice, c'est parce que c'était...
Première défaite de Lens à domicile.
Exactement, c'était une très belle affiche. Et c'est assez comment dire, pas triste, mais un peu décevant de voir que Lens est un petit peu moins bien depuis sa belle victoire contre le PSG, un peu à l'image d'ailleurs de sa vedette, Seko Fofana, qui lui aussi est un petit peu moins bien. Et à l'inverse, Nice, sans être extrêmement brillant depuis Digard, au moins ils se sont construits une personnalité. Voilà, j'ai plus rien à dire.
Flo, tes 3 points à toi.
J'en avais un sur Lens-Nice, donc effectivement, ça rejoignait mon avis très rapide d'hier sur le fait que je pense que Nice va faire une belle deuxième partie de saison et qu'ils ont bien marché, bien recruté au mercato d'hiver. On verra la suite. Reims-Lorient, oui, effectivement, parce que non seulement j'ai vu un bon match, j'ai vu une belle équipe de Reims, mais j'ai vu aussi une équipe, et c'est là que ça m'a surpris, à la 46e minute, alors que Reims était mené, j'ai jamais vu Lorient aussi acculé et acceptant de défendre comme une attaque défense. J'étais très étonné, je savais pas où ça allait aller, je pensais pas que Reims en mettrait autant, mais par rapport à ce que fait Lebris d'habitude, bah Lebris a été battu par plus fort que lui ce soir, et depuis le début de la saison, c'est assez rare.
Mais
là,
quand tu veux battre Lorient, c'est souvent ça, ça me rappelle ce que tu dis, les propos de Lebris au Vélodrome après qu'il se soit fait battre par l'OM. Il avait dit pareil, il dit nous on fait notre jeu, mais si en face le mec est plus fort, le mec met plus d'intensité, il nous bouscule, et ben on perd contre plus
fort. Sauf qu'évidemment on ne s'attendait pas forcément à ce qu'évidemment un jour on dit ça de Reims pendant 45 minutes.
Absolument.
Et le dernier point pour faire différence, je vais aller dans le bas de classement, Gilbert, pour parler des trois derniers, parce que là quand même la charrette semble se construire.
Chargée.
J'inclus Strasbourg dedans parce que j'y reviendrai. La tactique de Le Scornet ce soir a été terrible et inquiétante, parce que franchement c'est pas forcément Rennes qui a été incroyable, mais tactiquement j'ai pas vraiment compris ce qu'a voulu faire Le Scornet, c'était un peu voué à l'échec. Et
excuse-moi, il s'inquiète pour toi. Alors déjà,
je reviendrai sur Strasbourg.
Dit, comme le dit Alex sur Direct Studio, on peut dire que Rennes a battu Strasbourg sur le score net de 3-0.
Ouais, tout à fait. Et non, mais voilà, Auxerre qui perd, Angers qui perd à domicile face à Ajaccio, et Strasbourg qui perd, mais avec un match vraiment faible et une tactique bizarre. Ça sent pas bon pour les trois.
Stéphane, tes trois points à toi.
La France a peur. Ou Paris a peur en tous les cas, parce que l'info du soir c'est quand même la blessure de Kylian Mbappé, le génie français qui est sorti blessé à la cuisse. Pour moi c'est ça l'info de la soirée. La deuxième c'est le match PSG-OM est lancé, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais il est plus que jamais lancé et il faut le vivre ensemble. C'est-à-dire que on n'a aucune raison le 1er février ou le 31 janvier de dire Paris est champion, Marseille joue à deuxième place. Non, il y a un match pour le titre, il y a un Paris-Marseille dans 8 jours qui pourra totalement décidé de la...
Celui du
jour, c'est la coupe.
C'est la coupe.
Oui, mais dans 15 jours, alors en championnat. Oui,
26.
Ouais, février. 26 février.
25
autant pour moi. Je crois que c'était plus près que ça. Enfin, bref, en tout cas, ce match-là décidera de la fin de saison française. C'est extraordinaire quand même de se dire qu'on peut avoir une course au titre entre le PSG et l'OM. On avait eu ces pressions-là un petit peu avec Bielsa. Il y avait eu une année où ça a été un petit peu jusqu'à cette époque de l'année possible. Et après,
jusqu'à peu près, même un petit peu plus loin que cette époque-là.
C'est ça. Et,
voilà.
Et puis après, on avait déchanté. Mais enfin, il y a toujours cet espoir-là. Et puis, du coup, j'ai oublié mon troisième point. Ce n'est pas très grave. Vous m'en excuserez. Il y en a suffisamment d'autres qui ont donné des points. Si le troisième point, j'étais en train d'y penser là, c'est regarder ailleurs aussi. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est ce qu'a fait le Bayern ce soir, parce qu'on suit quand même ce match à distance PSG-Bayern. Le Bayern qui a été gagné en Coupe d'Allemagne 4-0. À Mayence, avec le premier match comme titulaire dès son arrivée de Cancelo, donc on voit quand même un mercato qui a peut-être été un peu plus anticipé côté bavarois, côté parisien.
Et ça, puisque tu parles du Bayern,
c'est pas compliqué. Plus que le PSG,
je glisse que Sadio Mané a repris l'entraînement avec le ballon aujourd'hui.
Ah oui,
hein, 13 jours. Après gagner à Mayence comme Paris gagnait à Montpellier, il y a pas de quoi se lever le matin à 5h puis dire vive la République, vive la France.
Après, je sais pas s'il y a genre qu'à jouer, ce qui aurait pu changer la phase du match. Les gars, démarrons quand même sur Mbappé, parce que on a vu des images là, sur Canal, dans le couloir, où évidemment on a sous-titré ses propos où il disait que c'était donc, il disait j'ai trop mal en bas de la cuisse derrière. Ouais, alors est-ce que c'est un simple coup, est-ce que c'est déchirure,
si c'est notre Djokovic qui jouera contre le Bayern Munich,
comme on a appris aujourd'hui qu'on pouvait gagner l'Australian Open avec 3 cm de déchirure et qu'il y a assez de gogo pour croire à cette fable. Bon, bah alors ça veut dire que Mbappé peut jouer contre le Bayern.
Donc, tout va bien.
Pas de problème.
Après, si
tout va bien.
Si effectivement c'est
tout va bien,
une vraie blessure,
joue contre le Bayern, il met un triplé avec 3 cm de lésion.
Ce qui est sûr, c'est que
si c'est 3 cm de lésion, il sera pas là contre le Bayern.
Pas là. C'est ce qui est.
Djoko, il a bien gagné.
Sérieusement, Daniel.
Bartoli a expliqué aujourd'hui que c'est tout à fait possible.
Ce qui est certain, c'est que s'il est sorti aussi vite, aussi rapidement, et que c'est que ça allait pas. Donc c'est pas une blessure bénigne, mais ça peut être une sortie de précaution. Donc peut-être que si c'est une petite déchirure, bah c'est jouable pour jouer dans 13 jours. 13 jours. Enfin c'est pas impossible. Mais en revanche, c'est les ischio-jambiers. Donc si
j'ai pas souvenir, Flo ou Daniel, j'appelle à votre mémoire, ou Gilbert, mais de l'avoir vu sortir en cours de match sur une blessure comme ça musculaire en se tenant la cuisse.
Non, très vite. En plus, effectivement, ça veut dire que lui-même s'est pas dit je vais rester 10 minutes, je vais essayer de marquer un but, sortir après. C'était pas possible de jouer. Donc il y a forcément une déchirure.
Avant d'arriver à cette blessure, on peut quand même dire que ce qu'on pressentait, ce qu'on avait évoqué au moment de parler de la Coupe du Monde et de là où elle était placée dans le calendrier, de cette reprise après de courtes vacances où Mbappé est revenu, a tout de suite joué, puis il est parti en vacances, puis il est revenu pour cette tournée complètement ridicule, pas au bout du monde, mais pas loin quand même du bout du monde.
Bah, 7000 kilomètres quand même, ouais.
Pour aller faire ce match-là. Puis le retour et la reprise, tout ça à quelques semaines d'une échéance très importante, sans jamais se reposer, parce qu'on ne peut pas faire de turnover avec les trois de devant, parce que c'est comme ça, parce qu'on sait jamais si je suis pas là et que les deux autres brillent pendant que je suis pas là, eh ben limite on va m'oublier et puis on va piquer mes pénaltys et tout ça. Et je ne dis pas ça pour critiquer Mbappé, je dis ça vraiment pour plutôt critiquer la gestion entière de ce qui se passe dans ce club. Qu'il finisse par se blesser, bon, je sais pas si c'est étonnant, pas étonnant.
Déjà, c'est un gars qui se blesse très peu, hein, bon,
mais
depuis le début de sa carrière.
Il y a eu quelques minutes passées sur le terrain avant la blessure. Et ces minutes-là, elles ont quand même montré quelque chose qui est assez dingue. Le Mbappé, qui, lors de la finale de la Coupe du Monde, va en mettre trois des pénaux, deux vrais pénaux, un tir au but, qui dégage cette confiance, cette impression que rien ne peut lui arriver, qu'il est plus fort que le monde entier. Et qui, quand il revient au PSG, je redécris pas l'environnement et le contexte de tout ce qui s'est passé, mais il joue un match contre Montpellier, et quand il prend le ballon pour son premier péno, déjà son visage me plaisait pas, il le rate, on le refait tirer, il le rate à nouveau, et puis quand il le rate derrière,
il est une énorme occasion qui
rate. Le ballon revient, mais c'est presque pire de rater l'occasion, ouais, qu'il rate, ouais, quand le ballon revient sur lui, que le péno en lui-même. Et il met le ballon au-dessus comme un c'est une image de, je sais pas, de vidéo gag. Ben là, moi, je me dis que c'est ça qui est inquiétant, c'est que le club est en perte de confiance totale. Et avant le troisième but de Zaïre Emery, quand il y a 2-1, mais le PSG recule, le PSG est vraiment pas bien après le.
Oui, il y a une petite occasion de 2-2 pour le PSG.
Heureusement que Nordin a pas marqué plus tôt, parce que sinon c'est panique à bord, ils peuvent prendre le 2-2. Et on parle de Montpellier, hein. Montpellier, c'est loin d'être Reims d'il y a trois jours. C'est plus faible que tous les clubs que le PSG a rencontrés récemment.
Heureusement pour Paris ce soir que c'était pas justement une équipe
du calibre de Reims,
voilà.
Bien sûr.
ou de Lens ou de Nice en ce moment.
Bien sûr.
Donc rien de neuf sous le soleil à Paris.
Sauf si que... on a vu une passe magnifique de Lara Fabian.
Ah oui, Fabian Ruiz.
Belle passe décisive quand même. Hein.
Moi, j'ai trouvé quand même que dans le, par rapport à ce qu'on avait vu dimanche, bon, c'était pas très dur d'être un petit peu au-dessus.
Comme ça,
j'ai trouvé quand même dans l'esprit plus présent, les Parisiens, plus concernés par leur affaire, un peu plus mobilisés dans la récupération du ballon, etc. On a vu, bon, ce qui est normal, hein, ce qui est le minimum syndical, mais ils ont quand même fait le, et puis se relever de la blessure de Mbappé, des pénaltys manqués, mener quand même 2-0. Bon, on a vu un Messi un peu plus concerné, on a vu des choses quand même.
Tu sais, Stéphane, à partir du moment où
après, Messi là, il se retrouve, il y a ni Neymar ni Mbappé. Donc peut-être qu'il se dit, attends là, si c'est pas moi qui fais la diff.
Oui, mais surtout qu'il y ait eu plus de courses au moment où Neymar et Mbappé sont pas sur le terrain, c'est presque normal parce que ceux qui sont là, ils vont forcément se bouger un peu plus, quoi.
Et il y a aussi autre chose quand même sur le fait qu'on a vu un PSG qui est plus dans ses habitudes avec Messi, notamment effectivement, qui a quand même été bon sur les passes, c'est qu'il n'avait pas en face l'équipe justement qui mettait de l'intensité. Montpellier est une équipe à l'ancienne, je dirais, par rapport à la différence qu'on peut faire dans ce championnat de Ligue 1, qui est quand même assez classique, assez décevante, qui met pas beaucoup d'intensité, qui donc ne gêne pas forcément autant le PSG que peuvent le faire des équipes comme Rennes, Lorient, Reims, etc. quoi. Donc, franchement, la faiblesse de Montpellier empêche de on va dire de se rassurer. Mais c'est vrai que là, ce soir, entre la blessure de Mbappé, mais je me demande même s'il n'y avait pas quelque chose avant sur la façon dont il tire ses pénaux et dont il met au-dessus sur l'action du pénau. C'est-à-dire que quelqu'un quand t'as une gêne, quand t'as un petit problème, ça joue aussi sur tout ça, puisque sur tes frappes, sur ta confiance et surtout. Donc je me demande s'il n'y avait pas quelque chose avant qu'il se blesse.
On aura peut-être des explications au courant de la soirée. Sur le PSG, il faut aussi qu'on raconte vite fait ce qui s'est passé cette nuit, puisque hier soir, à la même heure, on était en train de parler de l'éventualité de l'avenir de Ziyech. Bah donc, pas de Ziyech, hein, vous avez suivi ça. Alors, la Ligue fait savoir que c'est pas du fait du PSG, que c'est la faute de Chelsea, en fait. Un papier non signé par Chelsea. Bon, Chelsea sont capables de faire venir 45 joueurs en l'espace d'un mois, mais ils peuvent signer un papier.
Ils ont fait capoter 3 ou 4 affaires dans la nuit, pas que Paris, hein, avec des joueurs prêts. Enfin, l'effectif de Chelsea, c'est d'auberges espagnoles. Donc, il y avait des joueurs qui devaient être prêtés, pareil, des joueurs dont on ne connaît même pas les noms, les nationalités, qui devaient être prêtés en deuxième division anglaise, qui ne l'ont pas été pour les mêmes raisons, parce que les papiers ne sont pas arrivés à temps. Bon, on a compris hier, Chelsea avait un truc à faire, c'était boucler Enzo Fernandez, 120 millions d'euros quand même à minuit. Donc, ils avaient d'autres chats à fouetter que de s'occuper du reste, visiblement.
Bon, et Ziyech, du coup, pour aller en Turquie, dernière info du soir.
Mais enfin, après, quand tu t'appelles Paris, si je pense pas que tu attends de minuit moins le quart, le dernier jour du mercato, si t'as un besoin réel identifié. Enfin, c'est ce que vous avez dû effectivement soulever hier.
Il y a plein de choses dans cette histoire. Je pense que là, on n'a pas fini d'en parler parce que d'après les infos qu'on avait hier, Daniel, on en parlait. Le staff n'était pas. Quand je parle de staff, je parle même de la direction sportive, n'était pas forcément en phase sur le fait de recruter
Ziyech. Si tout le monde est en phase, Ziyech, deux semaines avant, t'actives le truc.
C'est une sorte de panique prêt, j'allais dire. Ouais, panique prêt, mais en plus, ça c'est peut-être pire que le reste. C'est-à-dire que quand Campos a dit en début de semaine, et je le comprends pour le coup, je me mets sur cette ligne, la priorité c'est une recrue défensive, sur le plan défensif et pas sur le plan offensif. Et qu'après on apprend que la seule qui peut venir c'est Ziyech parce qu'ils n'arrivent pas à faire Skriniar. Que Ziyech vienne ou pas, c'est pas finalement assez anecdotique. C'est plutôt le fait qu'ils aient pas réussi à faire quelqu'un d'important, et notamment dans le domaine défensif.
Bah, surtout que ce soir, autre blessé quand même, si on avait compris, c'est Ramos. Donc Rémi Pierrot a dit que c'était adducteur. On l'a cru, nous, que c'est commotion cérébrale.
Je me demande si c'est pas une bonne nouvelle.
Moi je suis d'accord avec toi, Daniel. Enfin, c'est une bonne nouvelle.
Contre le Bayern, pour le 11 de départ
du Paris Saint-Germain, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, pour la rotation parisienne jusqu'à la fin de saison, c'est quand même un souci.
Oui, mais là, la rotation jusqu'à la fin de la saison, je ne pense pas trop. Je pense à la rotation contre le Bayern.
Danilo peut se préparer, déjà. On va avoir du Danilo.
Je vous pose la question comme ça. Bayern, 14 février, il est 15h l'après-midi, vous devez faire la compo. Marquinhos Danilo ou Marquinhos Ramos?
Ah non, moi je me pars Ramos, c'est sûr. Je vais pas dire l'inverse. Hein.
Ouais. Stéphane, tu fais.
Non, moi non plus, mais je pense que dans l'esprit de Gaffier, c'était Marquinhos Ramos. Ouais.
Bah, je parle ton esprit à toi.
Ah, oui, non, mais mon esprit à moi, non.
Ah, ouais, moi je mets Danilo derrière aussi.
Je suis assez d'accord avec cette thèse. Là, pour le coup, il y a peut-être une bonne et une mauvaise nouvelle dans la soirée.
Ah, exactement.
Dans un instant, l'OM au programme. Ensuite, il y aura Lens, ensuite, il y aura Lyon. Nice et les autres. Oui, Stéphane, tu vas rajouter un truc?
Je trouve incroyable que l'histoire Skriniar débouche là-dessus. C'est-à-dire que on comprend que le PSG, on nous dit que le PSG s'est mis d'accord il y a déjà plusieurs semaines avec Skriniar pour qu'il vienne l'année prochaine, que ça n'ait pas pu être activé cet hiver. Si vraiment il y avait un besoin identifié, tel que le disait Luis Campos, ça, c'est étonnant quand même. Et Luis Campos, on va quand même se poser beaucoup de questions sur son cas après deux mercato, dont un il a dit lui-même,
raté.
On a dit lui-même qu'il était raté, lui-même. Et le deux, il y a pas besoin d'un Campos pour dire qu'il est raté.
Oui, mais Stéphane.
Même si des fois les meilleurs mercato c'est quand on prend personne.
Non mais Stéphane, c'est mercato raté par Campos ou c'est organisation du club qui fait que Campos a pas les mains suffisamment libres? C'est une question importante parce que quand on dit que Jérôme Henrique est encore dans les tuyaux et que y compris pour Ziyech d'ailleurs, il a encore le pouvoir pour faire des transferts contre peut-être l'avis de celui qui est quand même plus ou moins le conseiller sportif normalement, à savoir la personne qui doit décider en numéro 1. C'est qu'une nouvelle fois, c'est l'organisation du club qui est en cause. Alors après, Vauthier, t'as raison, on peut dire qu'on posera de ses mercato lui-même. Le dit. Quand il le dit, chez Jérôme, dans Rotten sans flamme, quand il le dit lui-même, c'est que franchement, lui-même sait qu'il n'en est pas le seul responsable. Il gère une situation qu'il a un peu subie. Après, ça n'empêche pas il faut pas exonérer Campos. Moi, j'ai aucune.
En Ligue 1, avançons.
Aucune accointance avec lui, mais malheureusement, j'ai l'impression que l'organisation fait que. Au Paris Saint-Germain, on a du mal à faire les choses simples.
On va conclure sur le Paris avec Foued au 32-16 avant de passer à l'OM. Salut Foued.
Salut tout le monde.
Bon, tu veux parler du match ou du mercato?
Moi j'ai un coup de gueule d'ensemble en fait.
Ah vas-y, on t'écoute.
Ça fait déjà plusieurs années que voilà, mercato, entraîneur, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, et ben le gars, on a son frère jumeau, on a son cousin, on a son oncle. Là, on a même le meilleur directeur sportif qui arrive, on arrive à le transformer en pompe. Enfin, le mercato, zéro recrue, et aujourd'hui, ce qui devait se passer, ça s'est passé. Kylian Mbappé qui se blesse. Voilà. Dans 14 jours, on joue le Bayern. On va jouer sur notre meilleur joueur. La bonne nouvelle, comme disait Daniel, il m'a piqué ma réplique, c'est la blessure de Ramos. Hein. On va enfin pouvoir mettre quelqu'un d'autre derrière. Je pense que ça ne pourra pas être pire. Donc voilà, c'est vraiment un coup de gueule général. La direction totale du club, enfin, il n'y a pas de direction. On ne sait pas où on va. On fait un panique prêt pour Ziyech. On n'est même pas capable de le signer. enfin, j'ai l'impression qu'on s'est dirigé comme un club de 4e division. On est censé être le PSG, le plus grand club de France, un des plus grands clubs d'Europe. Et il se passe rien, les années passent et il se passe toujours rien. Aujourd'hui, on a sur le terrain, on a Solaire. Et les gars, vous l'avez vu, Solaire, sur le terrain?
Non, on le voit pas, en fait.
Ben, on est d'accord, on joue à 10. Ça fait 5-6 matchs d'affilée qu'il nous fait jouer Solaire. Fait jouer les jeunes, je sais pas, tente quelque chose d'autre. Le gars, il met pas un pied devant l'autre. Ruiz, pareil, le gars, il joue à Naples, titulaire, capitaine, le gars.
Ce soir, il a pas été mal, c'est pas son pire match, loin de là, Ruiz.
C'est pas son pire match, ouais. Mais combien de temps il va lui falloir pour pouvoir faire un peu plus d'autres choses? Galtier nous invente Vitinha numéro 10 aujourd'hui? Enfin, désolé, mais
qu'il n'y ait pas de progression dans le jeu, que on ne comprenne toujours pas ce que veut faire l'équipe, est-ce qu'elle presse haut, est-ce qu'elle presse pas haut, de quelle façon elle joue, ça c'est un peu impossible à dire. Ce qu'on constate, c'est tu prends le ballon et sur une belle conduite de balle, une belle passe, une belle frappe, parce que t'as des joueurs de talent dans cette équipe, je vois pas en dehors de ça ce qui peut se passer. T'as rien à un moment. T'as la magnifique frappe. En fait, s'il n'y a pas hors-jeu sur le but d'Hakimi, eh bien, voilà, on va dire que cette action-là aurait été un peu l'illustration parfaite de ce que fait le PSG. Bon, ben, Hakimi, qui ce soir s'est montré très actif, à 20 mètres en face, il t'envoie une patate dans la lucarne, c'est magnifique. Bon, voilà, action individuelle, une belle frappe, mais après, je ne peux pas te parler d'une passe, d'un bel enchaînement, de quelque chose de bien dans cette équipe, quoi. Tu l'as dit toi-même, le milieu de terrain ce soir, il est composé quoi? Est-ce que t'as les joueurs en tête? Bon, Fabien de Ruiz, c'est pas son plus mauvais match, c'est vrai, il est dans le coup des bonnes actions, même si il s'est fait un petit peu pas humilié, mais un peu promené par Savagnier sur une action qui a marqué les esprits là quand même, sur le petit lobe.
Ça, c'est Gélide Savagnier.
Ouais,
c'est
voilà. Lui. Sinon, c'est il est plutôt pas mal ce soir, comme il l'a été d'ailleurs au PSG cette année. Il a pas, sur les dernières semaines, il était mauvais, mais sur les matchs d'avant, il avait plutôt montré des choses intéressantes. Certainement pas au niveau de ce qu'on attend au PSG. Mais après, autour, Vitinha, il a baissé. Solaire, il n'existe pas. Renato Sanchez est rentré très tôt dans le match. Il a beaucoup couru. Ça, c'est sûr qu'il a un gros abattage, mais de lui, j'attends autre chose, et autre chose, il ne le montre pas. Bon, Nuno Mendes, il a dû certainement être bien meilleur que ça sur le côté, dans son apport offensif. Ouais, pas grand chose de positif. La victoire, mais avec la blessure de Mbappé, cette victoire-là, on va vite y penser. En fait.
Je remercie Fouet, le 32-16. Dans un instant, l'OM au programme. Restez là, supporters marseillais. Il y a beaucoup de choses à dire sur Marseille ce soir qui s'accroche et qui est là, juste derrière le PSG. On revient tout de suite avec Stéphane, Florent et Daniel.
RMC jusqu'à 12h30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h22, Stéphane Guy est là, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là également. Tout à l'heure, Stéphane parlait de la victoire du Bayern en Coupe 4-0 à Mayence. Sachez que Leipzig est également qualifié 3-1 face à Hoffenheim. Je donnerai d'autres résultats internationaux ce soir, notamment le Barça qui gagne au Betis ce soir de 2-1. Le Barça, évidemment, plus que jamais en tête en Espagne.
Et allez, puis, pour les amoureux du foot anglais, quand même, on aura un bon vieux revival. Ah oui. Avec une finale de Coupe de la Ligue, Newcastle-Manchester United. Ça va nous rappeler les années Cantogino.
Exactement. Et peut-être c'est le premier titre de Newcastle version Arabie Saoudite.
C'est autre chose. Ouais. Puis le premier titre du club depuis, je crois que c'est 71, le dernier titre de Newcastle. 70-71, une Coupe d'Europe ou une Coupe des Foires, un truc comme ça.
Eh bien.
Mais une finale Manchester United-Newcastle, ça nous rappelle Keegan Ferguson.
Voilà. Il y a un podcast After Galaxy sur Newcastle qui est en ligne. Je vous le conseille. United a battu Forest 2-0 ce soir en demi-finale retour. Alors, l'OM, il y a plein de choses à dire sur l'OM qui à Nantes a gagné, s'est créé des occasions. En plus, Unai marque un beau but pour son premier match. Bref, on va dire que c'est quasi la soirée parfaite là.
Un beau but. Putain, c'est C'est énorme pour des débuts ouais. de mettre un but pareil, ouais, de tenter ça. C'est
d'ailleurs une pensée pour le pauvre Giroto parce que
ouais, en plus il a
quand même pris un double tour de rein.
Bah, il a une petite, en plus il a un tout petit peu de chance sur son deuxième oui. double contact.
Un petit compte pour lui.
C'est un double contact chanceux, mais peu importe l'idée du double dribble à ce moment-là et la finition, c'est un geste de classe et avec un joueur qui, comme nous l'a dit d'ailleurs son sélectionneur nous a dit ça. Mais il en a beaucoup parlé. Outre qu'il court beaucoup, qu'il est très présent, qu'il vient rechercher le ballon très loin, quand il faut finir ou quand il faut aller se montrer, il est toujours là, il se cache pas.
Parce que lundi avec Oli Draguier, on se disait est-ce qu'il va franchir le palier en fait.
Alors, après il faut le faire sur la durée, hein, mais franchement, premier pas, là je pense que les supporters marseillais, entre le mercato, les trois recrues, les résultats, et ce que disait Stéphane sur le mois à venir,
ils ont raison, ils sont emballés. Si tu t'enflammes pas un peu là, tu t'enflammes jamais.
Et là, je reconnais que pas de Coupe d'Europe. La possibilité de se reposer entre chaque match.
Je crois qu'ils aimeraient bien jouer jeudi prochain en Europa League.
Ouais, mais maintenant que c'est fait et se dire qu'au cas où tu puisses aller prendre la première place en Ligue 1 et jouer ce titre, c'est quand
ils
même.
Ils n'ont pas fait ce mercato-là d'hiver pour être deuxième du championnat. Ils ont fait ça quand tu as dit. Parce que moi, je pense qu'il y a la question gay, on en reparlera, peut-être qu'elle sera soulevée plus tard. Mais il y a aussi l'idée quand même de se dire c'est peut-être l'année où on peut aller les taper, le PSG. Quand on voit les prestations du PSG et qu'on voit l'OM en ce moment, c'est pas brillant. Ce qu'on a vu de l'OM aujourd'hui à Nantes, mais enfin, on a vu une équipe qui
mérite sa victoire.
Voilà,
c'est différent. Ouais, non, mais je pense que tu vas rebondir là-dessus, mais c'est vrai que c'est différent d'une époque où justement ils entamaient leur match pied au plancher en étouffant l'adversaire. C'était le cas par exemple encore récemment contre Rennes. En revanche, là, la première période n'a pas été bonne. On s'est demandé même s'ils pouvaient pas prendre un but sur un mauvais coup. Et là où Tudor fait son apparition, enfin on le voit pas, mais sans doute dans le vestiaire et dans les changements, un changement de joueurs, mais plusieurs changements sur le terrain et une autre équipe en deuxième période.
Alors,
mais
c'est vrai qu'on a vu deux matchs. Il a fait ça samedi aussi.
Ouais. La même. Ouais.
Donc on est en trois jours sur deux matchs. C'est pas le même adversaire, c'est pas la même prestation, mais dans l'idée, il y a première mi-temps qui est pas très bonne, qui est pas dans l'esprit OM, avec peut-être, on l'envisage, un Tudor qui se fâche dans le vestiaire à la mi-temps, qui change pas mal de choses, positionnement de joueur. Et maintenant, il a de quoi faire au niveau des changements. Il va même, peut-être même avoir des petits mots de tête pour savoir qui titulariser maintenant. Ce soir, il a redonné du temps de jeu à Payet. Comment il va faire maintenant avec Unai en plus? Guendouzi est entré également. Ça a dynamisé un petit peu l'équipe. Ils ont été meilleurs. Comme tu l'as dit, oui, ils méritent leur victoire. Évidemment, les Nantais, qui ces derniers temps n'en mettaient pas une et surtout restaient bien derrière, n'attaquaient plus. Là, ce soir, parce que c'est un peu match de gala, ils ont plus poussé, ils ont été meilleurs et ils ont parfois inquiété l'OM.
Mais c'est pas Nantes, c'est pas une équipe qui à domicile lâche beaucoup de pas.
Exactement.
En tout cas, perd beaucoup de matchs. Donc, hein. Il y a que Paris qui avait gagné Nantes.
La performance des Marseillais est notable, mais on n'a pas retrouvé encore complètement un OM percutant sur les demi-temps. Ils sont pas bons sur toute la durée, ce qu'ils arrivaient à faire il y a encore quelques matchs. Là, ils sont plus intermittents, mais ils continuent à enchaîner et Tudor va avoir des solutions pour changer ses joueurs. Là, à la mi-temps, par exemple, on a bien compris que depuis qu'il était arrivé, il s'était installé comme titulaire Malinovski, mais il est pas bien sur la première période. Moi, il me plaît pas trop. À un moment, il a gâché une occasion là.
Il se sert
de l'appel d'Under pour jouer le coup tout seul et il rate complètement sa frappe.
Il sort aussi parce qu'il vient de prendre un jaune et qu'il a failli faire une deuxième faute. Je pense qu'il le sort aussi par précaution.
Peut-être que c'est pour ça, mais je l'ai pas trouvé hyper bon non plus. Donc aujourd'hui, t'es pas bon une mi-temps, avec Tudor, tu sors direct parce que sur le banc, il y a un mec qui peut prendre ta place et qui peut être bon.
C'est juste derrière qu'il faudra surveiller, puisqu'on le fait avec le PSG sur chaque absence. Balerdi va être suspendu au prochain match et Mbemba est sorti blessé. À mon avis, Mbemba, c'est quand même le maillon fort de la défense, quoi qu'il arrive autour. C'est-à-dire que tu peux en gros remplacer les autres, Mbemba plus difficilement. On sait que Balerdi
va être suspendu en Coupe de France contre Paris.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a la coupe entre les deux. Alors c'est peut-être moins, entre guillemets, moins grave pour la Ligue 1, mais faut surveiller sur Mbemba parce que je pense que c'est quand même là un des points d'équilibre. Effectivement, il a de plus en plus de solutions au milieu et devant. Derrière, c'est vrai que si tu perds Mbemba, par exemple, sur quelques matchs, c'est pas tout à fait la même défense. Donc il faudra avoir la même analyse que l'on a pour
le PSG. Il a repositionné Kolasinac en centrale, ce qui lui offre aussi cette possibilité-là. Il y a Klose qui est rentré aujourd'hui. Non, il y a un effectif.
Klose qui a failli mettre un un beau but sur une ouverture magistrale.
C'est vrai qu'il n'a pas osé, parce qu'il aurait pu avancer avec le ballon en fait.
Ouais, mais il a fait le bon choix.
Il doit se sentir à l'air.
Le choix de la balle piquée du lab, le bon choix, c'est que techniquement il ne le réalise pas tout à fait.
Je me suis dit ça, il a dû se sentir à l'aise avec ce geste-là. Moi j'ai envie de souligner le geste juste avant de Guendouzi. L'ouverture, il n'est pas lancé en plus, en rupture. Magnifique.
Alors dans ce cas-là, Klaus, sur le but.
C'est ce que j'allais dire. Tu dois souligner avant l'exploit de Unai, la passe externe de Klaus sur le but d'Unai.
Exactement.
C'est vrai. Il y a des gestes
d'ailleurs,
techniques.
D'ailleurs, on revoit comme par hasard l'image là sur notre écran.
Il y a des beaux gestes, il y a des gestes techniques dans cette OM. Il y a de la classe maintenant parce que ils ont upgradé au niveau des joueurs. Par rapport au début de la saison, l'OM, c'est une vraie belle équipe maintenant. C'est équipe qui pousse.
Est-ce que l'OM doit maintenant se positionner en disant nous, maintenant, on va aller les chercher, on veut jouer le titre?
Et bien sûr qu'ils jouent le titre. Pourquoi tu veux que ce soit.
Ils n'ont pas besoin de clamer. Ils n'ont pas besoin de clamer. Nous, on le dit pour eux. Hein. Si tu es à 5 points du PSG après 20 matchs, c'est que tu es dans le coup et que tu reçois Paris.
En plus. Exactement. Donc,
Ils peuvent recevoir le 26 Paris et perdre à domicile. Et alors, le PSG est favori, le PSG est plus fort, il n'y aura pas de problème. Et l'OM s'inclinera à ce moment-là. Mais là, avec cette équipe maintenant, les possibilités qu'a Tudor en titulaire, remplaçant, enfin bref, un groupe comme il a maintenant, il a largement de quoi être conquérant.
Quand tu tournes à 2, 3, 2, 4 points par match, c'est que tu es sur un rythme de champion. Donc pour aller chercher, il faudra être très très fort. Et puis il y a le Marseille-Nice là qu'on va vivre dimanche soir ensemble, ça va être formidable.
Ah ça c'est très excitant. Parce que le Nice qu'on voit là, depuis que Digard a repris l'équipe, où c'est pas génialissime, hein, mais c'est une équipe qui maintenant a vraiment du caractère.
Là ce soir il faut un gros coup quand même. On va en reparler.
Ils font un gros coup, mais
ils sont surtout très durs à jouer.
Ils sont devenus durs à jouer, ils ont du caractère, ils y vont, ils se battent maintenant. J'en veux
avec mes absents, mais Todibo s'est blessé. Pour moi Todibo c'est la valeur sûre de la défense.
Todibo revient pas.
Il est sorti. Il est resté courageusement sur le terrain. Je me suis demandé comment et il a fini par sortir.
Il avait 3 cm aussi lui, lésion un peu plus.
Non mais lui je sais pas ce que c'était, mais ça me semblait sérieux. Donc à surveiller, parce que moi il y a des joueurs comme ça que je trouve capitaux, tu vois.
Bien sûr.
Derrière.
Nicolas est là, supporter de l'OM. Salut Nicolas.
Salut tout le monde.
Salut. L'OM joue le titre ?
Ah ben oui, ça y est, on peut plus se cacher. Là, pour revenir un peu rapidement, Mbemba, il était sous le coup d'un jaune aussi. Alors, je pense qu'il est sorti parce qu'il avait un petit coup sur la cheville, mais aussi il était sous le coup d'une suspension aussi, donc c'est peut-être.
Et je viens de le voir faire le tour d'honneur, enfin des images enregistrées évidemment, mais après avec les autres, donc ça doit pas. Enfin, je veux dire, il n'était pas totalement à l'arrêt. Quoi.
Il le faisait en courant, si en marchant.
Non, mais il avait l'air très très souriant, mobile. Donc c'est peut-être pas grand-chose, hein, mais voilà.
Ah, sinon,
mais quand même Mbemba, si tu veux, c'est à la fois un défenseur, mais aussi un attaquant. C'est quand même assez rare d'avoir le gars qui est à l'origine et à la fin des actions. Donc ils ont un joueur comme
ça. Non, mais Mbemba dans les défenseurs, c'est celui que t'as pas envie de voir blessé.
Ouais.
C'est le dernier que tu veux mettre sur la liste des mecs blessés, quoi.
Mais par exemple, le fait qu'ils sortent, c'est paradoxal, mais le fait qu'ils sortent et que derrière on arrive à garder le rythme du match et aller à chercher même le deuxième but. C'est quand même un signe qu'on a un effectif qui doit jouer le titre. Surtout que là, on n'a plus de Coupe d'Europe, on ne peut plus se cacher. C'est vraiment...
Ce qui est intéressant, tu as raison sur le banc. C'est quand tu regardes les entrées en jeu du soir par rapport à une certaine époque OM début de saison, tu fais entrer Klaus, tu fais entrer Guendouzi, international français, tu fais entrer Unai, international marocain, et tu fais entrer Payet. Ça, c'était le bon touche ce soir. Gueule.
Mais l'OM, ça fait des années qu'ils n'ont pas eu un effectif aussi riche.
Et t'as Vitinha, le fameux Vitinha, qui n'est pas encore qualifié.
Le fameux Vitinha, qui est quand même censé être la star, puisque c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Donc avec lui, si tu régales pas, limite, je te dis, pour l'OM, ça va devenir un énorme... Enfin, ça l'était déjà, mais ça va renforcer le regret de ne plus être en Coupe d'Europe. Les jeudis soirs, je pense qu'on se serait régalé au Vélodrome. Hein.
Ah, c'est clair. Moi, le match couperé, c'était Monaco, parce que j'attendais de voir ce match avec impatience, vu qu'ils reviennent bien. Et ce match nul, là, on les laissait à 5 points. Donc, si on a joué petit bras, on se disait que bon, ben, on les laissait à 5 points et qu'on jouait toujours le podium. Avec ce soir, le scénario de ce soir, avec bon, Paris qui gagne, mais qu'on reste à 5. Et du coup, surtout le nul qu'ils font juste avant, qui fait qu'on ne perd pas de points sur eux. Et Lens qui lâche des points, c'est important aussi. D'arriver déjà, genre je préférerais que ce soit Lens qui finisse sur le podium avec nous, mais j'ai l'impression que
tu vas me lâcher. T'as l'impression de voir Monaco revenir lancer. Ouais,
faut être. Ouais. On va en parler.
On va en parler. Sur un match non plus. Hein. Faut tranquille.
Ouais. On va en parler de Lens dans quelques instants. Nicolas, merci beaucoup. Bonne
soirée.
Les dynamiques
semblent s'adresser.
Dans un instant, Lens-Nice justement, pour aller un peu dans l'ordre du classement hein, en quelque sorte. Et ensuite, on parlera de Monaco, de Lyon un petit peu plus tard. On est là jusqu'à minuit et demi ce soir dans l'after, donc pour pouvoir évoquer un peu tous les matchs ensemble. C'est vrai qu'en une heure. C'est trop court, donc on prend le temps. Voilà, encore une heure d'after, enfin une petite heure maintenant, avec vous tous au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h36, l'after est là pendant encore une petite heure jusqu'à minuit et demi ce soir avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo et avec Stéphane Guy. On a parlé de Marseille, on a parlé de Paris, on va maintenant parler de Lens, les gars, avec oui, on fait ça par ordre d'apparition au classement, d'autant que c'est un petit événement ce soir, première défaite à domicile des Lensois face à Nice. Alors, est-ce qu'on retient plutôt la performance niçoise? Flo, hier, a fait un avis prémonitoire en disant que Nice allait faire une très bonne deuxième partie de saison. Voilà. Il est sur une bonne semaine, Flo, là. Il nous avait dit Lorient, Nice.
Entre le prix d'Amérique et le prix de France, en général,
Cornulier, Amérique, France, voilà, c'est mon triptyque.
Le prix d'Amérique, t'as touché un peu?
J'ai touché un outsider, Italiano Vero, Philippe Allaire, que je voyais bien, que j'ai bien marié avec le Bazir, mais. J'ai eu du mal à faire sauter les deux du Val d'Estaing ensemble.
Il y a toujours un mais. J'ai compris. Avec les parieurs, il y a toujours un mais. J'ai cru que, mais.
Mais quand même, Italiano Vero 20 contre 1 à la place.
Bien,
beau.
Flo, bien.
Mais non, le truc du prix d'Amérique de dimanche, c'est intéressant par rapport au foot. Faut juste imaginer qu'il y avait deux frères qui étaient les deux favoris de la course, pour faire simple, et les frères du Val d'Estaing.
Il y avait 22 et 24 ans, ils étaient plus jeunes, les deux réunis que.
C'est Valérie, leur prénom.
C'est les fils de Giscard.
Ouais, c'est les fils de Thierry Duval d'Estaing, leur père qui est l'entraîneur, mais
grand entraîneur de l'or.
On se demandait qui pouvait gagner cette course parce qu'il y avait 4-5 chevaux qui se valaient. Et à la fin, dans ce cas-là, quand les chevaux se valent, les drivers font la différence et le sang-froid et l'expérience des drivers. Et les deux jeunes, il n'y a pas que ça, mais ils n'ont pas été à l'arrivée.
Ils se sont fait manger par le mieux.
Bazir, qui a l'expérience, Nivard, qui a l'expérience, qui ont chacun gagné 5 prix d'Amérique. Ils étaient à l'arrivée et pas les petits jeunes.
Est-ce que tu connais toute l'histoire des courses, les vieux jockeys et tout?
Oh, j'en connais qu'un petit peu.
Est-ce que tu as connu Jackie Planchet?
Non, j'ai connu
Jackie Planchet, Jackie Planchet. Ex-jockey et gardien du PSG.
Ouais, je connais pas.
74.
Ah ouais, bah, c'était les jockey et gardien du PSG, c'est qu'il devait culminer à 1m70, le gars.
Justement, c'était un problème.
C'était pas une bonne idée.
Mais bon. Il est plus resté dans l'histoire du PSG parce qu'il était jockey que parce que c'était un grand gardien. Jackie Planchet.
Un jockey gardien de bus.
Les liens entre le foot et les courses sont multiples. Il y a plein de joueurs et d'entraîneurs qui sont fans.
Il y a Luis Fernandez qui fait un lien entre les courses et les
Griezmann, fréquemment.
Griezmann maintenant, c'est plus récent. Tony Parker, là.
La ligne droite de Longchamp, cher à Thierry Roland.
Il y avait Samaritano qui était à Vincennes dimanche, par exemple.
Je salue Stéphane Dumont, qui est aussi copropriétaire, l'entraîneur de Guingamp de trotteur.
Pourquoi est-ce que je l'ai lancé sur les courses, Daniel? Tu peux me dire? Quelle erreur!
Pourtant, je pense que c'est deux univers. Varmuz était un grand.
Oui, non, mais on s'arrête.
Deux univers qui se marient bien.
Bon, Nice fait un gros coup, les gars. Ouais. Est-ce que vous retenez le gros coup de Nice ou vous dites, tiens, Lens, il y a quand même des failles. C'était quand même une sorte de rouleau compresseur, Lens, depuis
peu de deux. On la sentait un peu venir parce que déjà, les deux derniers matchs des Lensois avaient été un petit peu décevants. Et là, on rappelle, ils avaient gagné 10 matchs de suite à domicile. Hein.
Ouais.
Bon, à un moment donné, ça.
Après, ils cherchent toujours à mettre les mêmes
éléments. Ils ont des occasions. Hein.
Voilà, ils poussent toujours autant, mais c'est moins efficace. Ils ont pas de bol sur la frappe de Seko Fofana, qui ça peut être un partout. Hein. D'ailleurs.
Leur dernière défaite, c'était le derby contre Lille.
Il a à se demander si sur cette action Fofana, alors on peut jamais en vouloir à un joueur de frapper comme ça, il est un peu loin, il frappe, elle est belle, sa frappe, elle fracasse la barre, mais sur cette action de contre-attaque, il a deux mecs, je crois qu'il doit avoir une ou deux solutions minimum. Bon, il peut aussi passer la balle, il a envie de la jouer tout seul, encore une fois, c'est difficile de lui reprocher, mais il y a des coups qui sont un peu moins bien joués. Maintenant, les Niçois, Flo dit, ils vont être bien dans la deuxième partie de saison. Je veux bien être d'accord avec lui. De toute façon, ils étaient tellement pas bien sur la première partie, ils vont forcément être mieux. Le problème, c'est qu'ils ont encore 10 points de retard sur le quatrième. Comment veux-tu qu'ils comblent ça? Même si Digard les transforme. Pour l'instant, il les a transformés dans le caractère. Pour l'instant, c'est une équipe qui est transfigurée au niveau de ce qu'elle affiche en volonté, en détermination. C'est plus cette équipe passive qui regarde l'autre jouer. Il y a c'est un peu comme Reims d'ailleurs, que tu vois. On peut même si Reims, je trouve que c'est encore mieux.
Ça l'effet adjoint, ça marche mieux. C'est à Reims, mais pas à Strasbourg.
Voilà, là, c'est. Mais est-ce que ça suffira à remonter et à remonter vers quoi, vers où? Je ne sais pas. Mais il y a un peu des deux pour répondre à ta question ce soir. Il y a Lens qui est un peu moins bien en ce moment et Nice qui clairement, quand ils sont sur le terrain maintenant, c'est une équipe difficile à manœuvrer.
Offensivement, pour aller d'abord sur Lens, effectivement, ils sont moins bons. Alors, Sotoka Openda n'ont pas commencé, mais même la dernière fois, j'ai trouvé qu'Openda était plus nerveux, moins fluide, moins à l'aise. Il marque peu, il marque relativement peu, donc il y a un problème, je dirais, pour passer une vitesse supplémentaire, mais je pense que ça va revenir parce qu'ils ont intelligemment, il fait quand même tourner Aiz. Justement, il a commencé avec Saïd.
Il a perdu Aïdara ce soir. Hein,
ils ont peut-être perdu Aïdara aussi, ouais. Tu vois, il y a quand même des.
On attend les résultats.
Il y a beaucoup de blessés avec les matchs qui se sont enchaînés en janvier. Et ben, donné, ça claque.
Ils mettent beaucoup d'intensité dans les matchs, donc ça demande toujours d'être au taquet. Et je trouve que offensivement, ça a toujours d'ailleurs été un petit peu parfois leur point faible. Il y a souvent du déchet. Donc il faut trouver le moyen d'aller mettre un peu plus de buts. Pour Nice, effectivement, moi je pense pas qu'ils puissent accéder au podium parce que il y a les autres, il y a Monaco, il y a Marseille, il y a trop d'équipes devant.
Non, mais là c'est solide. Mais déjà ils arrivent à 5 derrière. Mais
déjà
t'as
une équipe,
hein.
Un effectif qui est vraiment par rapport à son classement qui est meilleur que le classement qu'il occupait là jusqu'à présent. Donc avec Thuram, avec maintenant Mofi, avec Todibo derrière, ils ont une équipe, il a un effectif pour faire vraiment une belle deuxième partie de saison. Et je pense que à partir
là, Digard a dit après le match, je te coupe parce que ça va. Il réfléchit sérieusement, et il se dit je peux associer Mofi et Laborde.
Oui. Bah, ça veut dire qu'il va se passer d'un défenseur parce que pour ça il joue à 5 derrière.
Non, alors le truc pour ça, c'était arrivé à Rennes au début quand Laborde est arrivé, il jouait plus sur un côté, Laborde. Il court beaucoup, hein, il est capable de beaucoup courir aussi pour laisser un peu l'axe à un autre joueur.
Laborde, il est jamais mieux que quand ils sont deux devant.
À deux devant, pourquoi pas, Mofi Laborde.
Mais c'est jamais qu'un juste retour des choses, hein, quand même, de voir Nice gagner des matchs et se situer dans le budget de Nice, les moyens de Nice, les capacités de Nice à recruter, l'effectif de Nice, voilà. C'était une incongruité. Cette histoire de Fab, c'est une incongruité liée là aussi, sans doute pas seulement à Fab, mais au contexte lillois. Là, on a un directeur de club, il y a un directeur sportif, il y a un entraîneur en place pour le moment, enfin, en tout cas qui a la confiance de. Donc il y a une espèce de remise un peu en ordre de tout ça qui porte ses fruits avec de la réussite parce que la victoire contre Lille ce week-end, elle est très heureuse et puis ce soir, ils n'ont pas non plus manqué de réussite. Donc,
mais
une saison, ça fait de ça aussi, évidemment.
Ils avaient un calendrier pas simple.
Ils ont Marseille dimanche.
Ils se rebectent dans un moment où ils avaient un calendrier compliqué et puis ils ont fait un coup énorme avec Mofi. Parce que on verra. Hein, mais
on verra.
Mofi en Ligue 1, c'est quand même.
Moi, je veux voir si dimanche au Vélodrome, Mofi sera qualifié. Est-ce que réellement il va faire ça sur le match du Vélodrome? Je veux bien le croire. Moi, j'imagine qu'il va plutôt y aller avec une compo comme celle de ce soir. 5 mecs derrière. Il va un peu verrouiller et devant. Peut-être même qu'il ne mettra pas la borne, mais qu'il mettra Mofi. Qu'il voudra jouer les contres avec de l'espace.
Je sais
et dans
pas.
Ce cas-là, c'est mieux Mofi.
La problématique des trois matchs en 8 jours.
Je ne suis pas sûr que c'est au Vélodrome qu'il va tenter ça pour la première fois. Je demande à voir quand même.
Tenter peut-être pas, mais alors, je ne sais pas s'il le fera, mais il y a quand même contre Marseille un coup à faire, parce que sinon tu te fais manger. C'est d'aller essayer de jouer, puisqu'il presse haut et il laisse les 1 contre 1 derrière. C'est d'essayer d'aller leur marquer un but. Parce que sinon, à un moment ou à un autre, si tu es toujours à 0-0, à un moment donné.
C'est plus avec Mofi qu'il le fera.
En tout cas, Digard, 4 matchs invaincus.
L'effet adjoint.
Donc, chapeau.
Ouais. Puis on le voyait. Enfin, je sais pas si quelqu'un imaginait Digard.
Peut-être lui-même ne s'imaginait pas d'ailleurs, parce que c'est toujours un truc qui te tombe un peu dessus.
Il y a pas longtemps qu'il est à Nice, hein, Digard. Il vient de revenir à Nice, là. Dans quel staff il était avant, mais il n'était pas à Nice, Digard.
Tiens, un mot sur Lens avec Daniel au 32-16. Salut Daniel.
Daniel, il est là.
Bonsoir.
Daniel Leclerc.
Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous?
Salut Daniel.
Bon, bah déjà, je vous entends depuis tout à l'heure sur les actions ratées déjà qu'il y a eu.
Ouais.
Le face-à-face où il n'y a plus de gardien, on tire 3 fois sur tout le monde sauf dans le but. Ça m'a agacé. Et en fait, c'est pas le premier match où on rate. Contre Strasbourg, déjà, je trouve que le match il est raté. C'est qu'on fait 2-2. mais le match il est raté. On a je sais pas combien de centres, on a je sais pas combien de coups de pied arrêtés, mais le match il est raté. Et là aujourd'hui, j'ai trouvé que la composition de départ est ratée. Bon, Salis Abdoussamed est blessé, donc il a été remplacé par Onana. Pourquoi pas? Frankowski, depuis quelques matchs, il fait des centres et des coups de pied arrêtés. Enfin, ils sont stériles, ces centres et ces coups de pied arrêtés. Il est bien fort sur son côté droit. Il fait des bons retours défensifs. Il met toute l'envie du monde, mais ces centres, ils sont stériles parce qu'on a personne qui joue de la tête. À la place de prendre Thomasson à Strasbourg, on a dû prendre à York. C'est pas possible autrement. Contre 3, pareil, les centres ratés. Là, aujourd'hui, les centres ratés, les coups de pied arrêtés ratés. Et il fallait mettre à la place de Saïd, il fallait mettre Openda dès le début avec sa vitesse. Je pense qu'il va traverser.
Tu trouves que Hez, pour une fois, s'est trompé dans ses choix?
Mais ouais, malheureusement, il se trompe rarement. Mais là, aujourd'hui, quand j'ai vu Wesley Saïd seul en pointe, avec Thomasson et je crois que
c'est. Oui, c'est vrai qu'il se passe de ses deux meilleurs attaquants dans l'absolu, en fait.
Mais ouais, je sais pas pourquoi il essaye pas une doublette Saïd. C'est rien à voir avec le profil de Thomasson et de Sotoka. Mais là aujourd'hui, avec les deux flèches qu'on a devant, il fallait les mettre quoi, avec la vitesse de Dante derrière et leur gardien à Nice. Fallait essayer les deux là.
Ouais, t'as peut-être raison.
Oui, c'est ça. Bah, mais c'est pas grave, il s'est planté aujourd'hui. Bah, on a grillé nos cartouches. On commence à griller gentiment nos cartouches pour la cinquième place. C'est derrière, ça commence.
Parce que toi, tu vises la cinquième place.
Ah, mais depuis le début de la saison, je vise la cinquième place. Quand j'ai vu qu'on commençait à être bon, pourquoi pas viser la deuxième? Peut-être la première quand Paris se craque. Allez, admettons, j'ai rêvé. Et là aujourd'hui,
quand tu te réveilles, tu dis cinquième.
Non mais faut pas. Enfin, c'est typiquement le discours du supporter d'après match qu'on entend évidemment beaucoup.
Ah oui,
mais tranquille, faut pas. Tu perds un 0 à domicile dans une semaine à 3 matchs dans une saison. Ben voilà. Et puis
le problème.
C'est pas pour ça que tu vas dégringoler à 7e place.
Une semaine à 3 matchs, une semaine normale ou une semaine en Courbis à 3 matchs.
9e qu'on perd. On perd Strasbourg 19e. On fait que 1-0 contre Auxerre dans un match hyper compliqué. On fait match nul contre 3. Bon, qui joue derrière.
C'est vrai qu'on le voyait venir.
Et on gagne contre Paris. Bon, très bien. Mais c'était match à prendre des points, quoi. Je suis désolé, Gilbert, mais contre Strasbourg, on doit prendre les 3 points. Contre 3, on doit prendre 3 points. Aujourd'hui, on peut le perdre le match, mais il y a des façons de perdre un match. C'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, non. J'étais déçu. Fofana est décevant depuis le début de saison. Il fait des gros matchs que contre les gros. C'est plus possible. Enfin. Il s'est réveillé qu'à 30 minutes avant la fin quand on prend un but, quoi.
Tu constates comme moi et tu sais si t'écoutes l'after à quel point je suis fan de ce joueur.
Ah oui, mais
honnêtement, j'ai presque envie de dire que c'est même depuis le début de la saison que je le trouve pas aussi dingue que l'année dernière.
L'année dernière, il explosait tous les.
C'était comme un moteur. C'était un moteur au milieu du terrain. Et là, plus ça va, moins je le trouve bien.
Ouais, cette année, il y a eu Sotoka qui a eu moteur, qui a pris le rôle de moteur. Il y a Salis Abdoul-Samed qui fait un boulot dans l'ombre exceptionnel.
Mmh. Ouais.
Quand il n'est pas là, on le voit. Et Fofana, quand il est invisible, on le voit, quoi. Ça fait.
Bah oui.
Là, il fait un gros match contre Paris, d'accord. Et début de saison, il est poussif, quoi. Il nous manque la dernière passe, le dernier geste, le dernier centre. C'est même pas le dernier geste, parce que le dernier geste, souvent, on n'est pas trop mauvais. Mais l'avant-dernière passe ou la dernière passe, c'est des mauvais choix. Fulgini, je suis très content qu'il vienne. Peut-être qu'il va mettre quelque chose, mais oh là là, j'espère qu'on va se réveiller.
Bon, là, il y a une petite défaite.
Après, la deuxième de la saison. Lens est tellement monté en gamme, c'est tellement devenu une équipe qu'on regarde, qui fait peur à ses adversaires et surtout à Bollaert, que quand les équipes viennent comme Nice ce soir, bloc bas, 5 derrière, c'est pas facile de trouver les solutions. Il y a des joueurs qui ont peut-être plus besoin. Parce que c'est aussi le jeu de Lens d'être très fort en transition. Un mec comme Fofana, quand je te disais que c'était une sorte de moteur, quand il démarre comme ça sur des récupérations et qu'il emmène, on a l'impression qu'il prend toute l'équipe sur son dos et il emmène tout le monde. Bah, contre ce genre de schéma-là, comme Nice ce soir, il a plus de mal. Lens est une équipe qui est plus attendue. Et ça, il va falloir aussi travailler pour trouver des solutions dans ce genre de match-là aussi.
Merci Merci Daniel. Dans quelques instants, on est de retour pour parler de Monaco, de Lyon, de Rennes, de Lille et des autres et de Reims, hein, qui est l'équipe là de la semaine pour l'instant. Incontestablement, on se retrouve tout de suite.
C'est bon, très rassurant, Gilbert, sur les blessures et de Ramos et de Mbappé, en disant qu'il pensait pour l'un que c'était une petite alerte sans gravité. Je parle de Ramos pour l'adducteur et pour Mbappé que c'était un coup derrière le genou. Pareil, il pense pas que ce soit très grave. Dixit Galtier.
Si c'est un coup, c'est un moindre mal. Allez, à tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à minuit et demi ce soir.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h52, Stéphane Guy est là, Florent Gautron est là ce soir et Daniel Riolo est là également. On a parlé de Galtier juste avant la pub, là. Écoutez-le parler des blessés ce soir. C'est parti, Christophe Galtier. Il arrive. Il est là. Oui. Non, peut-être. Bon, ça arrive pas. Bon, peut-être plus tard. Bon. Tant pis. Donc, du coup, enchaînons, les gars. J'aimerais qu'on dise un mot de Monaco. Qui a fait un mercato, on va dire, un peu dans l'ombre. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup parlé de
ils
Monaco.
Ils n'ont rien fait.
Il n'y a pas Diachil qui est.
Il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a eu aucune arrivée à Monaco, ça, je veux dire.
Et voilà. Donc on n'a pas parlé d'eux. D'habitude, mercato. Monaco est plutôt actif, hein, partie de ces clubs là où ça part, ça rentre.
Fini le temps de la terrasse.
Voilà.
Et Vassiliev, va peut-être revenir, donc ça va changer.
Oh, il a démenti, lui.
Ah bon ?
Qui ça ? Bah oui.
Vassiliev.
Bah, du coup, c'est peut-être lui qui pourra plus faire les transferts, peut-être. Enfin, quand il était à l'époque direct.
Il était commissionné sur les transferts.
Parce que tu vois que Vassiliev.
Il prenait un pourcentage quand il était directeur sportif.
C'était dealé. Est-ce que tu crois qu'il pourrait revenir au club comme directeur sportif et garder son agence d'agent ?
Bien sûr.
En mettant un homme de paille qui pourrait être. Pour le coup, Bachir Néar, qui va quitter l'équipe de France pour se consacrer complètement à ce métier.
Pour dans le foot, se libérer
dans le foot,
totalement.
Daniel, ce serait assez normal, finalement, tout ça. Oui, je vois pas ce qu'il y aurait de chocolat là-dedans.
Je pose la question.
Bon, en tout cas.
Le Gret, président d'honneur.
En tout cas, Monaco.
Et Frédéric Thirier, directeur sportif.
En tout cas, Monaco gagne 3-2. Alors, ça n'a pas été non plus une balade. Hein, les Auxerrois se sont accrochés.
Énormément de choses, mais taper dans la caisse, c'est pas le genre de la maison.
Non, mais parce que je parlais par rapport à Monaco.
T'es déjà riche à la base.
Ni de croquer et tout. C'est, le croquage, non, je le vois pas. Non.
C'est vrai. Je suis d'accord avec toi.
Moi, je ne l'accuse ni l'un de l'autre, ni l'autre, ni pas.
Moi, je pourrais.
Ni pas, ni non.
Je pourrais accuser, non, on verra, mais pas lui. Je pourrais de plein de choses, mais pas d'être un croqueur et un tapeur. Ça, non.
Sorry for this terrible erreur.
Revenons. For this terrible arbitrage. revenons au sportif, parce que la Monaco est quatrième, à seulement 4 points de Lens. Donc, est-ce que vous voyez là l'amorce d'un retour tonitruant ou on attend de voir ? Florent, ton micro.
Monaco, c'est un peu l'énigme pour moi. Parce que, effectivement, je vous verrais bien aussi faire, comme d'habitude, leur deuxième partie de saison canon. Ouais, pareil, ils ont l'effectif. On parlait de Nice tout à l'heure. Tu peux pas dire qu'ils n'ont pas un effectif pour ça.
C'est quand même c'est le génie monégasque, quand même, de ce club. En tous les cas, c'est de nous sortir des joueurs incroyables.
Oui.
Le joueur qui est en train d'exploser à Monaco, là, c'est quand même.
Il a marqué encore ce soir.
On a les yeux écarquillés quand on voit ce gamin-là.
Sauf que, même dans ce match, un bon résumé de la saison de Monaco. Et il fera un début où tu te dis qu'ils vont exploser au Auxerre 5-0. Ça va être un festival. Et puis ça se termine à la limite à jouer le 3-3, à garder leur score dans les dernières secondes. Donc c'est une équipe qui est quand même très surprenante et qui n'est pas à l'abri d'avoir des trous dans la saison. Donc de là à dire qu'ils vont jouer, tu vois, je suis beaucoup moins sûr, tu vois, de la mentalité monégasque, de la capacité à produire des performances de haut niveau toutes les semaines par rapport à l'OM par exemple. Je pense qu'ils ont pas du tout la même intensité.
Parce que Flo, c'est un peu comme Lille, ces équipes qui prennent des buts. Ils ont beaucoup de mal à boucler les matchs, à prendre deux buts, et donc tu te mets.
Ils ont
un gardien qui est pas un gardien pour jouer le podium en Ligue 1. Hein,
en plus, et puis je sais pas, ce contexte monégasque qui fait que tu as l'impression que tu peux pas être certain à 100% que tu vas être sur un défi podium. Ça va être très dur d'être supporter de Monaco parce que tu as une équipe talentueuse, tu as ce petit jeune là qui débarque, qui s'est révélé contre Auxerre d'ailleurs. Puisque tu sais, avec le calendrier, c'est bizarre. Ils ont joué il y a 35 jours contre Auxerre, pendant le fameux Boxing Day à la française. Là.
C'est vrai.
On a traité ça dans l'after. Et donc, il rejoue contre Auxerre, il remarque. Et il a fait un gros match, d'ailleurs, hein, en dehors de ça. Tout ça, très bien. L'effectif, le talent. Et pourtant, c'est une des équipes les plus difficiles à analyser de la Ligue 1, je trouve. Parce que les plus irrégulières dans le championnat et à l'intérieur d'un même match.
Daniel, ton avis?
Je l'ai dit pas mal de fois et je partage l'avis de Flo. C'est une équipe hyper dure à comprendre. Mais là, ce qu'on commence à comprendre, c'est que... Alors après, pour la deuxième partie de saison canon qu'on vend habituellement avec eux, là, il y a quand même la Coupe d'Europe. Et je ne sais pas de quelle façon ça ne peut pas leur prendre un peu d'énergie et les handicaper, notamment dans les matchs du mois de février.
Les Verkusen, ils jouent avec les retours. Eux, les matchs de leur de la, je sais plus, ils sont en Europe, eux. Ouais. Leur match sur 8 jours. C'est pas comme le PSG qui veut juste match aller puis un mois après le match retour.
Soit ils
vite,
soit ils passent un tour de plus, mais l'enchaînement jeudi dimanche. Ça peut peut-être les empêcher de faire leur fameux enchaînement de deuxième partie de saison. Je sais pas, c'est là-dessus j'ai un doute. Mais Monaco, moi je veux plus jamais me prononcer. C'est à chaque fois que j'envisage quelque chose avec eux, on se plante. Donc
c'est vrai que c'est bizarre. Mmh. Alors, vous savez que Ben Seguir a un frangin qui joue à Marseille, qui a été prêté à Valenciennes là ces dernières heures. Et ce sont des jeunes gars de Saint-Tropez.
Ah ouais.
Oui. Bon, ils sont nés tous les deux à Saint-Tropez.
Oui. Ouais. Les parents étaient gendarmes, le père.
Peut-être qu'ils étaient gendarmes. Pas pour s'enseigner.
Alors moi, pourquoi ils sont pas milliardaires, ses parents avec un yacht dans le port.
Ouais, forcément. Voilà.
Pendant mes vacances, je m'étais entraîné avec une équipe qui s'appelait le FC Labbé, parce que Labbé, Labbé de Saint-Tropez, qui regroupait des clubs de Saint-Tropez et de la Croix-Valmer. Et donc, il y avait effectivement pas mal de gens qui venaient de, bah, du coin, hein, évidemment, de plusieurs. Sainte-Maxime, Saint-Tropez, c'est un peu le, parce que Saint-Tropez, c'est minuscule. Mais après, ils jouent dans les clubs du coin, il y a des ententes.
Et... À la star du coin, c'est David Ginola, je te signale.
À Sainte-Maxime, ouais, de l'autre côté, ouais, effectivement, de Labbé. Et le gardien du stade de Saint-Tropez, c'est Aimé Rosso, qui est un ancien joueur du FC Tours.
Ah, très bien. On va voir avec Lionel.
C'est le lieu, non, rien à voir. Bon. Et voilà. Bon, le lieu de prédilection aussi, les pistes de danse où Jean-Michel Aulas aime.
Ah oui, c'est la villégiature de Jean-Michel Aulas.
C'est un peu fini pour Aulas, Saint-Tropez et les boîtes de nuit quand même.
Ah bah tiens, belle transition. On va parler de Lyon dans quelques instants. T'as Alexis qui nous attend au 32-16.
Lyon a joué ce soir.
Dans le défilé sur la réforme des retraites hier, dans les rues lyonnaises.
Ah oui, j'ai vu la petite pancarte.
Il y a une pancarte dédiée à Aulas.
Oui, ça disait, quand on voit Jean-Michel Aulas, en gros, Manu regarde Jean-Michel Aulas, les dégâts de la retraite tardive, quoi. C'était un peu ça. Je sais
oui,
plus,
c'est ça.
En gros, l'esprit, c'était ça. Allez, dans quelques instants, l'OL au programme. Ensuite, faudra qu'on parle de Lille, qui ne gagne pas non plus. Et puis de Rennes.
Strasbourg.
Et de Strasbourg, si vous le désirez. Et de Reims, bien
Strasbourg,
sûr.
Strasbourg, essaye de mettre Will ça. Steel. Essaye de mettre ça à minuit 20, minuit 30, comme ça, nous, on part et tu restes.
Dès qu'il peut gratter 2 minutes, tu vois.
À minuit 35, je pense, Gilbert, tu peux mettre Strasbourg.
Allez, à tout de suite dans l'after. On est encore là pendant une demi-heure.
RMC, jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec un casting de rêve, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là, Florent Gautreau est là. Voilà. Là, c'est pas Génération After, là, c'est le Real Madrid. Voilà. C'est pas la Castilla, comme dirait Fred Herbel. C'est vrai. Tout à l'heure, je voulais vous faire écouter Christophe Galtier.
Ça permet, puisque tu parles, oui. Pardon, ça n'a aucun rapport, Gilbert, mais de saluer nos jeunes confrères qui ont travaillé sur le mercato, qui ont quand même cette énergie.
Fabrice Hawkins, notamment.
Par exemple, Fabrice, Rémi, Perrault.
Rémi, hein.
Arthur. Rémi, c'est.
Non, Rémi, c'est un autre.
Arthur, Nico.
Arthur, Perrault, voilà.
C'est un
voilà, qui ont quand même été au charbon pendant un mois pour nous abreuver d'infos et nous régaler.
Pour finir sur un Ziyech qui signe pas finalement. Ouais,
ouais. On bravo, est quand même suspendu à leur travail. Et après une Coupe du Monde, déjà, vous avez été bien sur le pont. Bravo à eux. Il y a dans nos métiers, il y a quand même les producteurs d'infos. Il y a ceux qui les utilisent. Puis après, bon, il y a les éditorialistes, mais. Gloire aux producteurs, quand même, c'est eux qui font, qui permettent le reste.
Quelle leçon de management.
C'est comme dans la vie sociale.
Tu t'as vu ça, Daniel?
Ouais.
Prends-en de la graine.
C'est des équipes.
Voilà. Bravo, Stéphane.
Non, c'est gratuit, mais c'est sincère.
Merci donc à nos équipes, en l'occurrence. Alors, oui, je voulais donc vous faire écouter Christophe Galtier qui parle des blessures de Sergio Ramos et Kylian Mbappé. On écoute.
Évidemment, ce sont deux joueurs très importants, que ce soit Sergio, Kylian. Sur ce qu'on a vu à la mi-temps et sur ce qu'on s'est dit après le match, non, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais, on verra bien. Comme on joue tous les 3 jours, voilà.
Voilà, confirmation de ce que disait Stéphane. Alors, pour être tout à fait précis, la pancarte sur Jean-Michel Aulas dans la manif, c'était « Aulas, 73 ans encore en activité, tu vois les dégâts, Manu ?» pour l'interrogation. Voilà. Ce qui lui permet de saluer aussi le travail des reporters de région qui eux aussi sont sur le pont pour les transferts.
T'as raison.
Le problème quand on fait des, quand on donne des félicitations, c'est que si tu oublies un mec ou deux, direct ils flex.
Salut tous ceux qui nous ont un brevet d'information sur les transferts.
Bon, Lyon, les gars, on y va. Bon, encore un triste match des Lyonnais. Les matchs passent et on a l'impression qu'il n'y a rien qui change. En fait, il y a une espèce de mélasse lyonnaise. Là,
t'es bien obligé de dire ce soir que bon. Ok, mais là, ils ont 250 occasions.
Ah bon, on va pas, à chaque fois, on leur dit ça. Sauf que ça fait plusieurs matchs que ça arrive. Donc, à un moment donné, tu peux pas simplement dire.
Non, ça fait pas plusieurs matchs que ça arrive. Non, c'est pas vrai. C'est pas tous les mêmes,
les matchs récents, c'est ça.
Pas exactement toujours comme ça.
Ouais, rester sur une victoire, quand même.
Il y a les matchs où ils sont mauvais. C'est pas le même match contre Ajaccio. À la limite, ce soir, ils jouent presque mieux que quand ils gagnent à Ajaccio, hein. Où ils sont bousculés. Non, c'est pas exactement les mêmes matchs. Ce qui est récurrent, c'est la déception. Cette impression que l'équipe, de toute façon, elle va pas progresser et que même, quand elle se crée des occasions, elle est pas foutue de mettre des buts, même contre les petits, qu'elle ne s'en sort pas, justement, contre les petits. Non, mais la saison, elle est foutue. Que le mercato, il est resté en travers de la gorge de tout le monde à Lyon parce qu'ils ont pris ils ont pris du monde, mais finalement t'as toujours l'impression que c'est mieux ailleurs, que
ils
tournent la tête, ils voient que c'est plus beau ailleurs et que chez eux c'est tout gris. Donc il y a effectivement un négativisme qui a gangréné tous les supporters de l'OL, qui en veulent à tout le monde, qui en veulent à la direction. Et j'ai presque envie de leur dire, juste titre, c'est très difficile de pas être déçu et de pas en vouloir à tout le monde.
Mais il faut qu'ils se regardent aussi dans la glace, les supporters lyonnais, parce que l'époque où leur club fonctionnait bien, et pas, les années Genesio, hein, c'est pas si vieux, ils ont été à l'origine du départ de Genesio. Donc,
c'est pas vrai, ça, Stéphane. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas vrai.
Ça a beaucoup joué.
Mais c'est pas vrai. Et l'équipe à ce moment-là, elle est décevante également par rapport aux joueurs qu'il y a sur le terrain.
Et elle est dans le coup. Elle est quand même elle est en Coupe d'Europe tous les ans.
Parce qu'il y a eu une régression. Alors tu te dis,
ils vivent un peu comme les Verts aujourd'hui. Ils vivent dans le souvenir de cette titre de champion consécutif. Ça c'est extraordinaire, c'est exceptionnel.
Au moment où ça arrive et où en Coupe d'Europe ça se termine comme ça s'était terminé à l'époque contre l'Ajax, ou en championnat où ils finissent quand même à 20 points du PSG. De toute façon, on était déjà dans la normale, sauf que c'était de la normale qui était meilleure que celui d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est pas que c'est de la normale. Aujourd'hui c'est carrément un anonymat. C'est terrible. La position au classement de Lyon, c'est terrible. Et puis en plus, ils prennent dans la gueule un Aulas qui leur dit, il y a pas de crise. Et tout va bien, tout le monde travaille bien dans le club. C'est abominable. En fait, c'est un film d'horreur où à chaque fois tu rajoutes des scènes encore plus horribles. Tu sais, c'est Vendredi 13 épisode 1 ou Saw épisode 1, 2, 3, 4, ça s'arrête jamais. Mais n'empêche que l'horreur elle a commencé depuis longtemps à Lyon, et c'était pas mieux quand il y avait un tel, où on a maltraité un tel. Non, la responsabilité c'est pas les supporters, c'est Aulas.
Ils avaient des brouillards dans les yeux.
Non,
et que ça les a.
Les gars, tu sais qui a enterré Genesio ? C'est pas les supporters, c'est Aulas lui-même. Refais-toi la conférence de presse. Ça devait être
après Rennes.
Exactement.
Le match de Coupe de France contre Rennes.
Où Genesio est à côté, il l'humilie en direct. Il le traite comme un larbin. Moi, ce soir-là, j'ai eu de la peine pour Genesio. C'est pas les supporters les responsables. C'est Aulas qui endort tout le monde depuis des années.
Parce que Aulas, c'est sa fin. Cède ce jour-là à la Vox Populi. Et c'est un grand dirigeant.
Comme il cède quand il prend Juninho, il cède à la Vox Populi.
Mais c'est le début de ça.
Juninho acclamé ce soir au stade.
Juninho acclamé au stade.
Le public a pris le parti.
Moi, je trouve quand même, malgré ce que tu dis sur le fait qu'il se crée des occasions, c'est pas les mêmes matchs.
Juste, depuis tout à l'heure, j'essaie d'en placer une. Deux tirs cadrés à Ajaccio, deux buts. Pour Lyon, ce soir, 28 tirs.
Oui, ok. Non, mais très, très bien.
C'est pour ça que je te disais que c'était pas exactement pareil.
Peut-être. Sauf que Laurent Blanc a pris 15 points sur ses 11 premiers matchs avec l'OL, ce qui est le pire bilan d'un entraîneur avec l'OL depuis Jacques Santini en 2000.
Je peux pas te dire autre chose. Bon,
après, Santini qui a été champion.
Il a été champion après. Il a été champion après.
Bien sûr, Jacques. Tout à fait.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que, quelles que soient les circonstances, là on est quand même à Lyon face à une équipe de Brest qui n'est pas une des meilleures équipes de Ligue 1, loin de là, même si ça va un peu mieux là sur ces derniers matchs. Ils ont battu Angers la semaine dernière.
Ça avait croire avec eux en championnat.
Ouais, c'est le fameux choc psychologique, etc.
Oui, mais ça marche que partout, sauf à Strasbourg.
Lyon n'arrive pas. Ils ont perdu contre Clermont à domicile. Ils n'ont pas marqué donc ce soir contre Brest. Ça fait en fait cette propension à ne pas réussir contre ces équipes qui sont supposées être plus faibles est vraiment un marqueur fort, puisque Lyon n'arrive plus à imposer son jeu, à imposer quoi que ce soit dans le jeu quand l'équipe en face est présumée plus faible. À l'inverse, Lyon a fait un hold-up contre Lille, contre une équipe qui joue mieux qu'elle, mais contre les qui prend le ballon, qui le lui laisse en contre, et ils arrivent à s'en sortir comme ça parce qu'il y a aussi un peu de talent. Donc moi je pense que depuis le choix de l'entraîneur jusqu'au mercato raté, tout effectivement est raté. Ils sont dixième au classement. Plus personne ne veut venir à Lyon.
Tu sais ce qui est pire, ce que tu viens de dire là, ils sont dixième au classement. Mais le problème, tu sais ce que c'est, que c'est un vrai dixième. C'est pas un faux dixième. C'est pas un dixième accident. Aujourd'hui, Lyon est dixième derrière Clermont et c'est un vrai dixième du
classement. Ils n'ont pas gagné à domicile en Ligue 1 depuis le mois d'octobre.
Les équipes qui sont devant sont tout simplement toutes meilleures que l'OL. Et ça, c'est absolument terrible. Au moment où le club a été vendu, dans l'année de la vente du club, qui est quand même pas un mince événement, hein, c'est quand même un truc très 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 important, quand même, Ola, ce n'est plus le patron officiel du club. Il pourrait se faire sortir demain si John WhatsApp le décidait. Dans cette année absolument terrible,
Il pourrait bien arriver d'ailleurs.
Voilà.
Parce que maintenant aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de leviers
pour redresser Lyon. Lyon est dixième du classement en Ligue 1 avec un des budgets les plus importants de la Ligue 1. Et Aulas continue de dire qu'il n'y a pas de crise et que tout va bien et que tout le monde a bien travaillé.
Alexis est là au 32-16, supporter lyonnais. Salut, t'étais au stade, Alexis ?
Bonsoir messieurs, ouais, je sors du stade là. Je sors du stade et comme à chaque fois je sors du stade, je me dis mais quand est-ce qu'on va être heureux avec ce club quoi ? Quand est-ce qu'on va être heureux ? Tu peux faire 3 fois 90 minutes, tu marqueras jamais. J'ai été voir Clermont, j'ai été voir Strasbourg, j'ai été voir Brest ce soir et toujours pareil quoi. Toujours pareil, c'est la possession, mais devant il y a rien quoi.
Oui, parce que les derniers matchs à domicile de Lyon, pour aller dans le sens de ce que nous dit notre auditeur, donc match nul contre Brest, défaite contre Strasbourg, défaite contre Clermont, match nul contre Nice. C'est pas des, c'était Nice qui à l'époque était aux abois.
Tu vois le calendrier, tu te dis que voilà, tu joues Clermont, t'enchaînes Strasbourg, tu vas à Ajaccio, tu reçois Brest, tu dis que tu vas te prendre aller peut-être 15 points. Bah non, tu les prends pas. Tu perds deux fois à domicile, et je pense que vous avez tout résumé juste avant que j'arrive à l'antenne, c'est que le club il va droit dans le mur. Hein. Ola, s'il est perdu et il nous vend du rêve, c'est.
Comment il a été le joueur qui a failli être transféré au PSG ce soir?
Bah, j'en parlais avec vos standardistes. Je tricote et je fais la passe, je fais un petit geste technique, voilà, je fais du show quoi.
Exactement.
Je fais du show.
Ça fait beaucoup de gars qui ont failli être transférés au PSG quand même quand tu fais la liste.
Et le lendemain, on a les photos sur Instagram quoi.
Ouais, alors cela dit, Cherki, c'est tout à fait raison. Je suis d'accord sur cette analyse, mais le pire c'est que quand il sort, regardez le coaching de Blanc aussi. Parce que l'équipe termine avec des milieux défensifs.
Il n'y a pas Thaler qui fait rentrer Dembélé.
Il n'y a plus que des attaquants et des milieux à vocation défensive. C'est-à-dire que
Dembélé remplace Barcola.
Ouais, qui est la bonne surprise. Pardon.
Barcola, homme du match ce soir.
Mais Barcola, c'est un des meilleurs jeunes. Il faut savoir que Blanc ne voulait pas. Il a demandé des joueurs d'expérience dans le recrutement. Il freine des cas de fer avant de titulariser. Barcola s'est imposé au forceps sur des bouts de match. Il a vu qu'il était bon. Il est obligé quasiment de le mettre maintenant.
Messieurs, vous le savez comme moi, le problème, il n'y a pas l'entraîneur. Ça fait des années à Lyon qu'on crache sur l'entraîneur. On a craché sur Genesio, on a craché sur Bosch. Là, on crache sur Laurent Blanc. Mais au bout d'un moment, le vrai problème, ça vient d'en haut. C'est tous ces mercenaires là qui sont là au club, qui sont bien au chaud dans leur loge les jours de match. Et je sais pas ce qu'ils font. Mercato, t'as besoin d'un 6, tu le recrutes même pas. Je comprends pas. Et Olas nous a dit qu'ils allaient casser sa tirelire pour un milieu de terrain défensif. Et au final, un mois de mercato, rien. Enfin.
Ils l'ont pas trouvé. Le gars du Rayo Vallecano dont on parlait hier est pas venu. Aouar devait partir à la Roma. Il a refusé la Roma, Oussama Aouar.
Moi, je trouve ça fou. Cette histoire est folle, Aouar.
Il a quand même refusé la Roma parce qu'il a été prévenu trop tard et qu'il n'a pas eu le temps de se préparer.
Messieurs, Aouar à l'échauffement, c'est le mec qui tire une tête de 6 pieds de long. Enfin, t'as les mecs, tu sais, même Dembélé, il rentre, il joue 3 minutes, il se fait siffler. Mais pourquoi tu fais rentrer Dembélé?
Dembélé, il a pas voulu partir parce qu'il attend la fin. Il y avait Everton, Southampton qui voulait l'acheter, il a pas voulu.
Ça vient de la direction. C'est des contrats qui sont mal gérés. C'est des investissements qui sont faits n'importe comment. Et le club, il voilà, on est dixième, on a notre place. Comme vous avez dit, on a notre place. T'as des équipes qui n'avaient pas auparavant, comme Rennes, comme Lens, qui jouent au ballon. Qui jouent au ballon,
c'est
qui... normal qu'on soit dixième.
C'est vrai qu'avant, il y avait la Roma, mais il y avait aussi Manchester. Manchester United. Donc Aouar.
C'était beaucoup plus net pour la Roma, mais Manchester était dessus.
Tout ça pour prendre un Checo.
Là, Manchester là. Oui, Manchester United, ouais.
Vous savez quoi, je vous ai appelé,
si, je te garantis que c'est vrai.
Non, c'est vrai, Stéphane.
Ah, c'est une information.
Attends, ça redevient à peu près cohérent ce que fait Manchester United.
Ouais, attention,
à 2-3-0 près.
Attention, il est choqué, Stéphane.
Ah, ouais. Bah oui, Aouar au Manchester United. Là, le Aouar d'aujourd'hui à Manchester United. Alençon, oui, tu me dirais Alençon et sur Aouar. Bah oui, c'est une bonne idée.
Il a refusé aussi, figure-toi.
Président Bansard, prenez-nous Aouar pour la fin de saison.
C'est Bansard, il s'appelle
Nicolas Bansard.
Comme l'ophtalmo.
Comme l'ophtalmo.
Incroyable.
Quel ophtalmo.
L'ophtalmo. Bansard.
Bossard.
Enfin, Ben Saïd, quoi.
Ouais.
Je suis totalement perdu, là.
Contrat, c'est pas grave. Une référence à un grand film.
Ah, pardon. Je l'ai pas vu, celui-là.
C'est génial. Je suis sûr que tu l'as vu en plus.
Ah, bon, c'est quoi, comme film? Bonsard, Ben Saïd.
Vérité si je mens.
Vérité si je mens. Bah oui, j'ai dû le voir. J'ai vu le premier.
C'est Lukaku qui dit ça.
D'accord.
Dans le premier.
Ah ben bah je m'en rappelais, j'ai pas vu.
Juste sur Lyon quand même, et par rapport à toutes ces équipes dont on avait dit qu'elles avaient du temps avec la Coupe du Monde, faut voir le délai qu'il y a eu. On s'était dit, il y a la Coupe du Monde, plus là maintenant, tu vois, le temps qui a passé avec le mercato qui est au 31 janvier, ça te laisse, allez, deux bons mois pour travailler, enfin pour restructurer un effectif. On avait dit que c'était ce qui allait se passer à Lyon, et au final. Tu arrives à la fin du mercato en lambeaux, est incapable de battre, là, dans ce laps de temps d'ailleurs, de perdre contre Clermont à domicile, de pas marquer une action dans le jeu, de faire 0-0 contre Brest. Très franchement, ils étaient quand même sur un 6, c'est pas un peu comme le PSG. Ils n'ont donc pas réussi à trouver un milieu, un 6, sur toute la durée du mercato. Et c'est Lyon aussi, tu vois, c'est pas non plus, même s'ils sont dixième aujourd'hui, ça reste.
C'est d'autant plus étonnant que ça démarre le 1er janvier par Lovren. Donc tu te dis, tiens, ça y est, ils sont en ordre de marche, ils vont nous sortir des. Et puis effectivement, après, c'est une vallée de larmes. À moins que les deux joueurs qui arrivent, là, les deux offensifs qui se révèlent être des talents, mais on verra.
Je remercie Alexis au 32-16 et puis je renvoie au podcast After Lyon, hein, où Edouard G, notamment, qui était là, comme toujours, a fait un bilan mercato avec plein d'infos supplémentaires. Donc n'hésitez pas à télécharger les podcasts club. Allez, on enchaîne, il nous reste un quart d'heure ensemble, les gars. Parlons de Lille. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, on disait, mais ils n'arrivent pas à marquer, il y a quand même un problème. Et là, qu'est-ce qui se passe ce soir? Pareil.
Rebelote.
Exactement. Donc, est-ce que Lille devient aussi petit à petit une équipe anonyme, les gars?
Non, là, alors là, je reprends l'expression de Flo tout à l'heure, c'est toujours pareil. Là, pour le coup, c'est vraiment toujours pareil. Là, mais ça fait au moins deux afters d'après-match où on a vu Lille. Là, moi, je ne sais plus quoi dire sur eux. Là, c'est pas, regarde le nombre d'occasions qu'ils ont, le nombre de tirs, qu'il y ait des absents, pas d'absents. Là, c'est Jonathan David qui n'est pas. Enfin, c'est pareil, c'est toujours pareil. Ils dominent les matchs, ils ont les occasions, ils sont pas foutus de mettre des buts, ils gagnent pas les matchs. Bon bah au bout d'un moment, tu rentres dans le rang et puis c'est fini. Ils vont faire une saison à la Lyon en mieux. Et à un moment, faut marquer quoi, tu vois.
Là, je suis un peu surpris. Un peu surpris quand même parce que pour le coup, la grosse différence de Lyon, il y avait des certitudes, une qualité de jeu qu'on a loué d'ailleurs.
Ah, c'est sûr qu'il y a une vraie qualité de jeu. Ouais, elle est là, ouais, hein, la grande différence de Lyon.
Ce soir, ils se créent des occasions certes. Mais c'est vrai qu'en perdant leur joueur à droite devant, t'as l'impression qu'ils ont perdu un petit peu toutes leurs possibilités de marquer. C'est étonnant parce que là, il y avait beaucoup plus de certitudes, je les voyais plus haut. À noter quand même.
Oui, mais
qu'un adversaire quand même en face. Et que cet adversaire-là, pour avoir vu maintenant Reims là, dans un style différent, puisqu'ils sont encore plus offensifs, c'est un des adversaires qui est le plus compliqué à jouer défensivement. Clairement. Ouais, très, très compliqué. Tu regarderas sur leurs résultats. C'est même plus le Gastien qui, entre guillemets, dit je vais m'en sortir par le jeu. Non, c'est beaucoup plus pragmatique et très, très compliqué. Alors, ça excuse peut-être pas tout pour Lille, mais je trouve que faut pas se dire quand tu vas jouer Clermont que tu vas te balader et que normalement tu vas t'en sortir. C'est une équipe ultra compliquée à jouer.
Rien à rajouter sur Lille, les gars?
Non.
Très bien.
Non, mais sauf une évidence, c'est que ils ont 35 points, donc ils sont dans le coup. Voilà, c'est pas non plus. On est à la 28e journée, hein, tranquille. On n'est pas en train de distribuer déjà le classement final. C'est très très long encore.
C'est vrai. Allez, Reims, les gars. Alors que sur Direct Studio, on réclame le président Bansard dans l'after. Donc on va peut-être organiser sa venue au président Bansard. Le président d'Alençon.
Ah, le président d'Alençon.
Ouais. Pour l'aider directement.
Je crois que Bansard, l'ophtalmo.
Ouais, il n'est pas ophtalmo, président Bansard.
Non, pas du tout.
D'accord. Reims, écoutez Will Steele qui parle de Balogun. Il a encore été étincelant.
Meilleur buteur de Ligue 1.
Balogun
est le meilleur buteur de Ligue 1 devant Mbappé aujourd'hui.
14 ouais. buts.
C'est quand même c'est énorme ça. Qui aurait misé ça? Personne ne connaissait déjà Balogun, à part ceux qui suivent un tout petit peu le foot anglais. C'est
prêté,
colossal.
Prêté, hein, rappelons. Ouais,
remplaçant d'Ekitike. Hein. Mm-hmm. C'est recruté pour ça.
Exactement. Bonne pioche.
Et autant de
écoutez, Will Steele,
un sacré triplé. Hein,
Will Steele a encensé Balogun pendant 3 minutes, mais on a choisi de vous passer la fin de son analyse.
Normalement, son pied gauche, il est éclaté. Et là, il arrive à la reprendre plat du pied, il la met de petit filet. Donc, c'est chapeau à lui.
Voilà. Il dit, normalement, son pied gauche, il est éclaté. Mais là, voilà.
Bon, non, mais c'est énorme. Moi, ce que je trouve sur la terrain, c'est énorme. Parce qu'on attendait tous ce match-là pour voir s'ils étaient capables ou non de confirmer ce qu'ils avaient fait à Paris 3 jours avant. Ils ont quitté le parc sous les éloges. Ils en ont profité un maximum et ils ont eu raison. Ils ont dit, Abdelhamid a fait des déclarations qui ont nourri le débat sur le PSG pendant quelques jours, etc. Donc ils étaient attendus au coin du bois comme des bienheureux.
D'ailleurs, ils démarrent très mal.
Et ils sont menés 2-0.
Le post-Parc des Princes, retour d'acide.
Exactement. Et ils trouvent les ressources, pour renverser le jeu, marquer 4 buts, le triplé. Non, c'est vraiment énorme. Mais ça fait une série de, 11 matchs, 12 match maintenant pour Steele sans connaître la défaite, c'est sensationnel, vraiment.
22 occasions, 31 tirs, 9 cadrés.
Pour Reims,
avec un mauvais début.
Match spectaculaire.
Alors que Reims, moi, ce qui m'avait vraiment frappé ces derniers temps, j'avais dit dimanche, la solidité défensive de cette équipe-là. Bon, voilà, ils en prennent 2, et derrière, c'est festival offensif.
Ouais, mais ce qu'il faut noter, c'est ils sont redevenus solides, mais c'est à quel point Steele a changé le visage de l'équipe, mais même tactiquement et dans les intentions de jeu, en aussi peu de temps. Quand on dit qu'il faut toujours énormément de temps pour mettre en place une animation offensive et tout simplement changer l'intention de jeu de l'équipe, lui, il a fait ça très vite. Alors, il était l'adjoint.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il part pas d'un nuage blanc.
Il avait des idées, mais Garcia n'arrivait pas à mettre en place. Il ne tenait pas l'équipe. Bon, Garcia avait des problèmes perso très graves dans sa vie, qui ont fait aussi qu'il a quitté le club. Steele, il connaissait très bien le groupe et lui avait d'autres idées. Il faisait son taf de second, mais il avait d'autres idées. Il pensait qu'on pouvait faire autre chose avec cette équipe-là. Résultat, quand Garcia a été sorti, Steele, très vite en prenant l'équipe, a mis ses idées en place et le groupe a adhéré immédiatement. Donc lui avait les idées claires sur ce qu'il aurait pu faire si on lui donnait l'équipe. Et l'équipe, on a fini par lui donner. Et c'est incroyable comme très vite il a pu mettre toutes ses idées en place. Quoi.
Et alors, ce qui était assez étonnant dans ce match, que j'ai bien regardé, c'est qu'ils étaient menés. Tout de suite, ils reviennent dans le jeu avec l'idée d'attaquer et de prendre le jeu à leur compte. Et au début de la deuxième période, ce que je disais tout à l'heure, on a vu un Lorient qui immédiatement a accepté ou a été contraint par la puissance, l'intensité rémoise à se mettre dans ses 25 mètres. Et je me suis dit, c'est pas possible. On joue la 46e, 47e, 48e. Et tu voyais déjà Reims faire une sorte d'attaque-défense en mode coupe pour aller contre Lorient. Alors, il y a deux choses à ça. Il y a Steele, cette envie et cette propension. On l'a vu d'ailleurs aussi contre le PSG avec des plans larges assez étonnants où on voyait que toute l'équipe de Reims était dans le camp du PSG. À tel point d'ailleurs que des balles longues de Ramos ou autres auraient pu plomber complètement ce plan de jeu. Mais bon, c'est un risque, il y a une prise de risque qui était assumée. Mais il faut reconnaître aussi quand même, pour parler de Lorient, que cette équipe-là, décapitée au mercato, va avoir un petit peu de temps.
Ça commence à se voir, tu veux dire?
Ah, bah, c'est bien sûr. Attends, c'est compliqué quand même.
Quand ils ont mené 2-0, j'ai eu la pensée inverse.
Oui, d'accord.
C'est incroyable.
Ouais, mais
faudra voir. On leur a pris des joueurs, oui. Ils sont capables de se relancer immédiatement.
Sauf que quand je te dis que tu vois cette deuxième période, dès le début de la deuxième période, où tu vois cette équipe qui n'a pas cette habitude-là, cantonnée dans ses 20 mètres, je ne peux pas m'empêcher de penser que, défensivement d'ailleurs, et pas seulement, cette équipe-là qui a. Enfin, comment veux-tu, ça c'est quand même le foot d'aujourd'hui. Tu construis un truc de dingue qui est encensé par tout le monde. Je parle du travail de Régis Lebris. Et t'arrives à la moitié de la saison, on te fait exploser un peu tout ça. Excuse-moi, c'est pas simple. Donc certes, Reims, on en a parlé et c'est mérité. et style a totalement révolutionné cette équipe, qui dans l'envie déjà est un modèle. Le match était bien, le scénario sensationnel, Balogun est un joueur formidable. Mais j'insiste quand même, c'est dur pour des supporters de voir le travail que fait Lebris, de monter tout ça et de te faire couper en deux pendant le mercato d'hiver et éventuellement maintenant d'avoir des résultats un peu en dents de scie parce que faut reconstruire quelque chose. Il va y arriver Lebris parce que il est bon,
ils ont racheté,
intelligent.
Ils ont racheté des joueurs aussi, ils ont pas fait que vendre. Non, mais ils auraient utilisé un petit peu de la somme, mais bon, ça c'est l'économie et de la Ligue 1. Hein.
Ouais, mais ils ont perdu gros quand même.
Minuit 23, encore 7 oui, minutes ensemble, les gars. Oui.
Non, ça c'est un bon débat, Lorient, parce que ils ont perdu gros, oui, mais bon, ils auraient fini quoi, 8e, 7e, 8e de Ligue 1, ils vont peut-être finir 12e parce que bon, ça va pas, ça va, et ils ont peut-être gagné 2-3 ans de pérennité budgétaire.
Ah ouais,
non, si
ouais.
C'est bien géré, je ne sais pas si c'est bien géré ou pas, mais bon, voilà, c'est la problématique de ces clubs. Hein.
On va dire un mot de Toulouse, les gars, avec Steve qui nous écoute depuis un moment.
Juste, pardon, Gilbert, je fais un parallèle avec ce qu'on a vu, parce qu'on avait tout à l'heure sur RMC Sport, le match n'est peut-être pas terminé ici entre le Sporting du Portugal et Braga.
Sporting a gagné 5-0 d'ailleurs.
Voilà, Braga, c'est toujours une équipe surprenante qui sort des joueurs. Paf, là, ils avaient un attaquant, il est vendu à l'OM, et puis derrière, effectivement, ils prennent 5-0 le match d'après contre le Sporting. Quoi.
Steve, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir patienté.
Ouais, mais y a pas de souci. J'étais avec deux amis, donc j'ai pu attendre, même si c'est en semaine et que les horaires des matchs sont un petit peu différents. On s'adapte.
Ton accent donc, te trahit. Tu étais au stade à Toulouse.
Exactement, c'est ça. J'étais au stadium ce soir. Ben, comme
tu t'es régalé.
Saison. Comment?
Tu t'es régalé. Ça avait l'air d'être un match sympa.
Ah ouais. Franchement, je me suis régalé. Mais en fait, c'est vrai que cette année au stadium, je me régale quand même quasiment à tous les matchs. Y a beaucoup de Ouais, c'est vrai que on est en Ligue 1, mais malgré tout, comme la Ligue 2, on arrive à avoir des matchs vraiment à but, à spectacle, et puis une équipe qui perd pas trop à domicile, à part contre Monaco et contre Paris, quoi.
Ouais. Et puis en plus, j'ai retrouvé un vrai public.
Ouais. Et ça fait plaisir. C'est vrai que moi, je fais partie du virage Brice et c'est vrai que, il est complet tous les matchs, quoi. Donc, ça fait plaisir. Il y a une vraie ferveur, une vraie ambiance Et du coup, on essaye d'être là tout le temps et de soutenir le club parce qu'ils font les choses bien, tout simplement.
T'as envie de dire un truc sur Toulouse, les gars ?
Non, mais ça, parce que y a pas. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que peut attendre un supporter de Toulouse à part le maintien de son équipe quand il y a des promus comme ça,
Stéphane.
C'est de se dire, on prend du plaisir à aller au match.
Mais pendant des années, ça a été mon discours dans l'after. Je disais, mais toutes ces équipes qui n'ont rien à jouer,
oui, c'est ça. Ouais.
Si elles veulent que les supporters viennent au stade. Ouais. Il faut leur proposer quelque chose, leur raconter une histoire, proposer du jeu.
Rejoins, Daniel,
et pendant combien d'années on s'est fait chier à regarder tous les matchs avec les équipes du milieu de tableau. Aujourd'hui, la grande majorité des équipes de Ligue 1 proposent du jeu ou essayent d'être entreprenante au minimum. Alors que pendant des années, des soirées d'after, on constatait que 90% des équipes ne jouait pas. Ces entraîneurs-là, c'est terminé. Cette année, on a des révélations. Toulouse, on le savait dès le début.
C'est intéressant parce que dernière, toi, savait que toi, ça jouait. Le cas de Toulouse est intéressant, Daniel, pourquoi ? Parce que c'est Philippe Montagnier, l'entraîneur de Toulouse.
C'est
Philippe Montagnier, l'entraîneur de Toulouse, qui a certaines époques de sa carrière d'entraîneur. Moi, je défends toujours les entraîneurs parce que les entraîneurs ne sont pas identiques du point A au point B, ils font pas toute leur carrière sur le même tempo. Montagnier, il y a eu des époques où il a eu des équipes ennuyeuses. Et on était, le Montagnier à Rennes, je me souviens de débats autour du Montagnier à Rennes, qui voulait pas aligner machin, etc. Bon, et ben le même Montagnier, ce qui montre bien que c'est une affaire d'environnement, d'effectifs, de rapport à ses dirigeants, enfin de je sais pas, peut-être aussi soi-même d'envie,
c'est juste la direction,
de remise en cause,
c'est juste
etc.
La direction, c'est le cas à Toulouse, c'est par exemple également le cas à Troyes. La direction dit, nous, ce qu'on veut, c'est du spectacle. Et nous te soutiendrons tant que tu proposeras ça. Ouais. C'est clair, c'est net, c'est un message. C'est le message de Comoli, des propriétaires. Le recrutement est fait en ce sens. Tu nous donnes du spectacle. À trois, c'est encore plus que ça, puisque carrément, c'est la philosophie du groupe en entier. Voilà. Il y a maintenant des directions qui ont compris que le foot devait être envisagé de cette façon. c'est plutôt positif pour nous et pour notre championnat.
Et par contre, ça nous amène sur un autre débat qu'on va pas mener à 0h27, mais ne pas confondre non plus le niveau du championnat et spectacularité de notre championnat, qui est un championnat cette année spectaculaire. Moi, je doute malgré tout qu'il soit d'un très bon niveau.
Les jeudis soirs.
Steve, arrive, vu que c'est la première fois que tu passes dans l'after, on va t'offrir notre magnifique maillot de l'after, presque aussi beau que celui de Toulouse, plus beau, fait par nos amis de Kappa.
Ils ont fait un troisième maillot cette année, le teuf qui est plutôt joli aussi. Je sais pas si vous l'avez vu.
On n'est pas fan du troisième maillot, non.
Et des quatrièmes encore. Bon, qu'ils en fassent un, c'est pas grave, et qu'ils le mettent pas que tu joues à domicile, quoi.
Et là, t'as le premier maillot de l'after, là. Donc,
c'est cool.
Le maillot
c'est
first.
Super sympa.
En même temps, on en a pas de deuxième.
Ouais, il n'y en a pas de deuxième.
Salut Steve, bonne soirée. Les gars, c'est quasiment terminé. Il nous reste 1 minute 30. J'ai quand même 2-3 infos encore à vous donner. Alors, Souleymana est parti. Hier, on disait, rappelez-vous, à minuit, c'était pas encore été officialisé.
On avait des gens qui étaient prêts à l'accompagner à la gare.
À Kitterrand. 25 millions quand même pour Souleymana qui joue.
Très, très belle affaire.
Belle affaire.
Très, très belle affaire.
Les Rennais, qui ont aussi recruté le jeune Ibrahim Salah, international marocain des U23, qui arrive.
Et Souleymana, ils l'ont mis où ?
Et puis à Southampton.
Ah oui. Bon,
et puis l'histoire du jour, hier on vous parlait du passeport du directeur sportif de Bordeaux, Admar Lopez, qu'il a perdu, qui l'a empêché de faire un transfert. L'autre histoire du jour, c'est Pavlovic, le défenseur central, rappelez-vous, qui avait déjà joué en France, notamment à Angers.
Il avait de bons réflexes.
Et lui, il est venu en bagnole de Croatie pour signer à Saint-Etienne. Il fallait qu'il arrive en 23h, 10 heures de voiture. Il est arrivé cric-crac, comme dirait Laurent Blanc.
Il n'y avait pas un avion.
C'est ça les footballeurs des deux. Hein. Tu prends la bagnole, hein. Ils ont tous des jets privés. Hein. Voilà, 10 heures de bagnole, il est arrivé à l'heure, il a pu signer. Voilà, Pavlovic.
Motivé,
exactement, bravo. Et puis c'est tout. Et puis demain, Rongier quand même, avant qu'on parte, écoutez juste Rongier, parce qu'il a parlé de ce qu'a fait Unai sur son but, et il y a un truc à décrypter parce que j'ai pas tout compris. On écoute.
C'est du ish-ish. C'est un but, c'est magnifique, il a fait un très bel exploit, et ce but nous a fait beaucoup de bien, voilà, on l'a félicité, et j'espère qu'il va nous en mettre beaucoup d'autres comme ça.
Donc c'est du ish-ish. Si vous avez une explication.
Pas du tout.
On va chercher.
On va chercher du côté du bled.
Demain.
Il a des petits accents lizarasiens, Rongier.
Ah bon ?
On la voit.
Merci Stéphane, merci Florent, salut. Merci Daniel. Demain, soyez bien à l'écoute, émission surprise dans un lieu surprenant. Vous verrez demain soir à 22h dans l'after. Soyez au rendez-vous demain soir. Bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot.